Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Climat Parents Live où je suis en compagnie de Loïc. Loïc, le grand retour. Est-ce que ça va, Loïc?
Ça va bien, merci. Et toi, Rodolphe?
Très bien, très bien. Est-ce que la technique fonctionne? Est-ce que vous nous voyez, vous nous entendez?
Tous les deux.
Je pense, on va attendre un peu les retours, mais tout me semble ouvert de mon côté. Dites-nous s'il y a
Ah,
des
on a du monde un peu.
questions d'équilibrage. J'ai pas vu, ils sont combien?
Une quinzaine, je crois.
Ouais, ça commence tranquillement, ça va augmenter. Et donc aujourd'hui, c'est un live post-publication pour la vidéo qui est sortie il y a une dizaine de jours, dimanche il y a 10 jours, sur l'élimination du carbone, un terme qu'on entend assez peu encore, surtout phrasé ainsi. Et voilà, on a plein de choses à vous raconter là-dessus. Par quoi on commence?
Et ben déjà, qu'est-ce qu'on dit ce soir? On dit l'élimination du carbone, l'élimination du dioxyde de carbone, l'EDC,
Ah ouais, parce que normalement
CDR.
c'est élimination du dioxyde de carbone et dans la vidéo j'ai assez vite abrévié en élimination du carbone. Et en vrai on devrait dire quoi? Élimination du dioxyde de carbone atmosphérique, mais bon c'est sous-entendu parce que quand il est sous cette forme-là c'est quand même souvent dans l'atmosphère. Mais l'idée ouais c'est vraiment les méthodes qui permettent de retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère. Alors c'est appelé comme ça, hein, c'est dans le glossaire du GIEC, je sais pas s'il aurait pu avoir un autre terme. Parce qu'il est éliminé, souvent il est sorti de l'atmosphère, quoi. C'est un retrait du dioxyde de carbone atmosphérique. Il n'est pas éliminé au sens où le carbone n'est évidemment pas détruit dans l'histoire, hein. Il se retrouve juste ailleurs sous d'autres formes. Ouais, quel est ton terme préféré dans tout ça?
C'est une bonne question. Moi, j'aime bien le terme anglais, j'aime bien removal, il parle bien. Et je trouve les traductions, c'est compliqué. Donc, j'ai juste suivi le glossaire du GIEC sur cette histoire qui disait EDC, élimination du dioxyde de carbone, qui faisait un peu une traduction quasi littérale, je crois.
Ok,
Mais bon.
bah on peut parler d'élimination et ou de retrait. On va dire élimination, je pense, pour coller au choix de la vidéo. Mais vous voyez que là déjà, hein, c'est pas évident.
Ouais. Est-ce que tu veux qu'on parle de début de la genèse de cette vidéo, de comment on
Ouais,
a...
let's go, let's go.
Je te laisse raconter un peu alors. Tu commences?
Ouais, alors je pense que l'idée de traiter ce sujet venait de toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à traiter ce sujet déjà? À vouloir traiter ce sujet?
Moi, je sais pas, j'ai une petite passion de fond pour ce sujet. Qui me vient de quand j'avais eu, je pense, le rapport spécial 1.5, où il y avait ces quantités un peu démentielles de BEX dedans, et où il y avait des grosses, pas des polémiques, mais il y avait des débats de fond sur ce sujet-là, sur les émissions négatives. Et depuis, j'ai suivi la littérature, après dans la R6, je trouvais ça très intéressant. Quand on suivait la littérature scientifique sortir, on n'était pas très surpris parce qu'il y avait écrit dans la R6. Et après, plus on se prend dans cette littérature, et plus on se rend compte qu'il y a un écart assez gros entre ce qui est dans la recherche. Et ce qui est connu du public, quoi. Enfin, genre, pas grand monde connaît ou même comprend tout ça. Et il y a beaucoup de concepts qui sont mélangés, notamment capture et EDC. Donc, je sais pas, moi j'aime bien le sujet. Puis, comme il touche un peu à d'autres trucs autour, il faut comprendre net zéro, il faut comprendre la réaction du climat, il faut comprendre les scénarios d'atténuation, ça, qui sont aussi des sujets qui me passionnent. Ouais, en gros, c'était ça. Et puis, je t'ai proposé parce que. C'est quand je venais d'arrêter les lives parce que j'arrivais plus à le faire et que j'avais plus assez de temps et d'énergie pour ça. Et je t'avais dit, je crois que je préférais passer plus de temps à faire des vidéos, à écrire des scripts et à pondre quelque chose de quali. Et après que tu le publies sur la chaîne, et puis on s'est dit, feu, allez, on fait ça. Et puis on est. C'est ça, c'est comme ça que c'est
Ouais,
passé, je crois.
je pense que c'est le bon calcul parce que là, elle a déjà fait 55 000 vues, ça doit être plus que tous nos lives cumulés, donc ça permet, c'est un travail de bonne qualité qui restera et qui continuera de faire des vues et qui a son utilité, je pense. Bon, les lives aussi sont utiles, mais parfois il faut choisir. Ouais, et c'est aussi un sujet qui risque d'être de plus en plus discuté. Et on est dans une période où ça commence à être discuté, mais il n'y a pas forcément les ressources pour s'y retrouver. Donc il y a des personnes qui se retrouvent un peu à en parler rapidement et ou pas très bien. Donc je pense que ça aidera. Ça fait un peu un état des lieux et ça peut être un bon point de départ pour des personnes qui vont à le traiter par ailleurs. Que ce soit pour donner une opinion sur LinkedIn ou pour faire un article de journalisme. Je pense, ouais, sur ce sujet, ça fait partie un peu des premières vulgas, avec l'article de qu'on peut signaler quand même sur Bon Pote par Emmanuel Pont, qui
Oui.
rejoint pas mal notre vidéo, hein. On les a
Que je
faites
connais, hein, pour
indépendamment.
info.
Nous, on s'est efforcé de ne pas regarder l'article au moment où on écrivait le script. Et je pense que quand l'article est sorti, le script était à peu près fini.
Oui, il était fini, ouais.
Et lui, pareil, il n'a pas voulu regarder pour qu'il n'y ait pas trop d'influence. Après, vu qu'on lit les mêmes choses, c'est pas trop étonnant qu'on converge avec la même méthode et les mêmes sources, quoi, en substance. Mais n'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là. Et puis en anglais, il y a eu beaucoup de choses sur Carbon Brief, évidemment, qui est une vulgarisation assez poussée et complète.
Le
Donc,
souci, je dirais, c'est que sur Carbon Brief, vous allez trouver plein d'articles très détaillés sur plein de sous-sujets, mais il n'y aura pas un gros article principal. Je crois pas qu'ils aient fait ça spécifiquement sur le DC en général. Par contre, vous avez un énorme article sur les Becks et leur histoire. Vous avez... Donc, chaque fois, déjà, on est déjà dans un niveau de détail supplémentaire, quoi. Ah, mais Manu, il est là, oui. Peut-être qu'il serait dans le coin.
Ok. Ah, je savais pas que c'était son pseudo.
J'avais oublié aussi, ouais, ça fait longtemps maintenant.
Bah bravo, bravo pour l'article.
Et bah ouais, grave, il était très
Donc ça,
bien.
c'était le choix
Enfin,
du
j'ai juste envoyé.
sujet, et après tu t'es lancé là-dedans, et donc tu as été effeuiller tous ces articles littérature qui est quand même assez conséquente maintenant.
Ouais, et puis du coup, enfin moi j'ai bien aimé me lancer dans le sujet parce que bon, je me suis dit ça va pas me prendre trop de temps parce que je connais déjà assez bien la littérature. C'est toujours pas vrai, à chaque fois ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Je dis ça parce qu'on avait déjà fait ça sur les inégalités d'émission. J'ai déjà fait ce piège. Mais j'ai ressorti en fait la littérature que j'avais mise de côté ou dont je me souvenais, puis je me suis replongé un peu dedans, puis j'ai repris le rapport du GIEC, puis après il y a eu quelques papiers récents qui sont venus compléter. Et je crois que je t'ai envoyé une première version de script courant juin, un truc comme ça, l'année dernière, qui était un peu plus longue encore que ce qui est sorti. Et toi, tu as bossé dessus pour rendre ça plus digeste et plus vidéo-compatible, quoi.
Ouais, il y avait pas mal de matière, j'ai eu du mal à m'y retourner, à m'y retrouver au début, sujet assez compliqué, ouais. Et c'est une des premières fois où je devais m'emparer comme ça d'un contenu qui avait été beaucoup recherché par quelqu'un d'autre. Donc ça a été un nouvel exercice pour moi.
Oui, parce que tu
Et
devrais préciser, mais toi, tu étais auteur de tous tes contenus depuis les débuts.
ouais, de tous mes contenus depuis le début. La vidéo sur le charbon, j'avais payé, je sais pas, une dizaine de jours à un journaliste scientifique pour qu'il me fasse un peu de défrichage. Mais pour l'instant, je suis encore. Donc, j'essaye de faire un peu ce type de. Voilà, pour créer un peu plus de contenu, de faire un peu appel à des tiers. Mais j'ai du mal encore à m'emparer de la matière première qu'on me donne, quoi. J'ai pas encore de recette miracle. Toi, ça va, je te fais confiance, donc j'ai pas besoin d'aller tout relire, mais c'est pas toujours évident de trouver les bons interlocuteurs. Et donc, j'ai eu cette matière première et il a fallu voir ce qu'on voulait en dire. Il y a eu pas mal de questions, hein, notamment sur l'organisation. Au début, tu voulais couper la vidéo en deux aussi, avec une partie plus sur le net zéro, etc. La neutralité, qu'est-ce que c'est, et ce qu'on avait déjà traité dans l'inertie climatique, le cycle du carbone et un peu tout ça. Et ensuite, une seconde partie sur le panorama. Bon, j'ai préféré garder ça ensemble. Et donc ouais, j'ai mis un peu de temps à digérer, pardon, et réagencer tout ça. Et en plus, bon, j'ai eu quelques aventures entre-temps, parce que je me souviens travailler sur ce script à la maternité, hein, en attendant dans la chambre de pré-accouchement, parce qu'on y a été quelques temps. Ma compagne avait perdu les os, donc fallait rester à l'hôpital. Et donc j'ai bossé un peu dans ce cadre-là. Et alors évidemment, là, on prend quelques jours dans la vue. Et j'ai mis un peu de temps à accoucher d'une première version. Donc là, évidemment, dans ce process-là, on a discuté pour voir un peu ce qui était prioritaire ou pas. Et il y a quelques sous-parties qui ont été éjectées et d'autres qui ont été un peu simplifiées. Et après, il s'est passé quoi? Une fois qu'on avait cette première version.
Après, on a fait une première version qu'on a faite relire, si je me
Ouais.
souviens bien.
Et on a eu. Les retours étaient quand même plutôt bons dans l'ensemble. Il n'y avait pas de gros trucs qui allaient pas. Dans la phase de relecture, c'est une des premières fois où j'ai fait quelques expérimentations aussi avec ChatGPT sur un texte fini comme ça. C'était assez marrant. C'était assez marrant de lui demander. Faut les bons prompts et tout, mais un peu s'il y avait des incohérences, s'il y a des problèmes de, notamment sur les termes, parce qu'il y a jusqu'à la fin, c'est quand même une des parties flottantes. C'est sur quel terme on se fixe, et j'essaye de pas trop multiplier, de pas trop avoir de jargon, et du coup, c'est pas toujours très uniforme, donc ça, faut faire attention, et ça peut un peu aider là-dessus. Je lui ai demandé d'être un peu assez sensible, donc j'ai eu pas mal de faux positifs, quoi. Il trouvait des problèmes où il n'y en avait pas, mais il m'a aussi fait remonter quelques trucs utiles. C'était assez marrant. Et les relecteurs, évidemment, toujours précieux. Dans ces eaux-là, j'ai aussi été à la conférence qu'avait organisée l'AFEN, l'Association française des émissions négatives, où il y avait un peu les professionnels du secteur, que ce soit au niveau des crédits, de la régulation, ou des startups, ou il y avait un peu tout le monde là-bas. Et c'était intéressant hein, d'aller voir ouais, ce que disaient les professionnels là-dessus. Donc c'est un lobby hein, de l'élimination du carbone, hein, au sens où ça regroupe les différents acteurs pour que...
Français, du coup.
Français, ouais. Et voilà. Et ça, ouais, c'est... Donc je sais plus quand j'avais la première version, je dirais peut-être septembre, fin août, début septembre, on a envoyé en lecture, je sais même plus.
Ouais, c'est ça, c'était début d'automne.
Début d'automne, on a eu les trucs. Et en fait, on avait une version finalisée du script en novembre. Mais toi, t'étais pas chaud pour que je pide avant décembre parce que sortir une vidéo juste avant décembre, elle fait pas de vue quoi.
Je t'en Noël, ouais, c'est un.
Ce qui
Elle
est une
était déjà
erreur
prête, du coup, c'est ça.
que.
Hein.
Ouais, ce qui est. Ouais, parce que du coup, je l'ai filmé en, je pense, début novembre, peut-être bien. On avait donc j'ai filmé, il y a eu un peu de temps sur le montage, j'ai payé un peu des tiers pour le montage, il y a eu un peu de boulot pour les animations, etc. Je sais pas, je pense que en tout, il y a entre 10 et 15 jours de montage en journée de travail, dont les deux tiers qui ne sont pas par mois. Hein. Et voilà, je pense que fin novembre, elle était prête, pratiquement. Il y avait un peu des retours, des trucs qui ont traîné, et j'ai fini tout début janvier là, mais elle était prête. Et on s'est décidé à la sortir plus tard. Et du coup, j'ai speedé, je me suis dit, bah, je fais quoi avant les vacances? Et donc, j'ai speedé cette vidéo sur le Raptor, qui était aussi prête avant Noël, et j'ai sorti tout début janvier, pour que ça soit pas trop loin de l'apparition, ce qui a décalé un peu celle-là. Donc voilà sur le process, un peu la temporalité. Donc ça aura pris bien 9 mois le process complet. Alors évidemment, j'ai fait d'autres trucs en parallèle, un petit peu au moins. Vidéo sur le cerveau, celle sur le raptor, deux trois trucs que j'avais, et puis des trucs perso aussi. Et Francis Poulton demandait combien on a passé d'heures à ça. De mon côté, c'est incalculable.
C'est compliqué, ouais.
Je peux vous dire que côté montage, publication de la vidéo, mise en page des sources, filmer, etc., il y a, ouais, je sais pas, peut-être 8 jours de travail, mais sur la partie travail du script et tout, qui est vraiment la partie plus longue, franchement, je saurais pas dire. Ça se met sur trop longtemps. Et on va assez loin, et c'est un contenu qui est quand même assez long.
Ah, le script, là, il doit faire 35 ou 40 pages, je crois, le script final. Et puis on avait un document qui en faisait 60 ou 70, je sais plus.
Ouais.
Et on a enlevé un bout en se disant qu'on le garderait pour plus tard, pour une suite. Et puis finalement, le cycle du carbone, t'as un peu gardé des bouts dedans.
Ouais, j'en ai rajouté un peu en simplifiant quand même par rapport aux premières versions et en renvoyant sur les vidéos. Parce qu'en fait, il y avait deux sujets qu'on avait déjà pas mal traités, enfin qui est déjà pas mal traité sur la chaîne. Plutôt par moi, c'est des vidéos plutôt anciennes d'ailleurs, je dis on, mais sur le site du carbone et sur l'inertie du climat qui recoupe un peu le sujet là. Alors, on a des questions. Il y a une question sur la NOA et l'actualité politique, on la prendra peut-être un poil plus tard, mais on aimerait en parler un petit peu. Et il y a une question sur le prix du mégawattheure, pareil, on note et on reviendra dessus plus tard. Merci hein, pour ceux qui nous disent que c'était cool. Ah, Francis Poulton, il insiste, il dit grosse maille. Je sais pas, lire les papiers et faire une première version du script, tu saurais dire hein, combien d'heures il y a là-dedans?
Non.
Ouais, moi non plus, mais c'est. Je sais pas, à la
Lire les
grosse maille,
papiers, c'est quantifiable.
bout à bout, même juste travailler sur le script et évidemment aller lire un peu les papiers et intégrer les retours des commentaires et me déplacer et discuter un peu avec les gens et discuter avec Loïc, à mon avis, minima sur le script, moi j'ai passé 3 semaines de travail, vraiment minima, minima. Et je pense que de ton côté, avec toutes les lectures, il y en a au moins autant, quoi.
Ouais, après moi c'est des lectures que j'ai faites dans d'autres cadres avant, tu sais,
Ouais,
si je vais
ouais.
continuer là-dedans, quoi.
Ouais, d'accord, c'est pas spécifiquement pour la vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que si t'avais dû le faire pour la vidéo, tu serais dans ces ordres de grandeur-là, non?
Oui. Moi j'ai assisté à des conférences et j'ai suivi des séminaires et d'autres trucs qui traitaient ce sujet-là avant dans d'autres cadres. Donc j'avais la chance d'avoir cette base-là de temps déjà passé où j'avais juste à aller retourner, retrouver les choses, les agencer. etc. Les sujets où je travaille avec toi, c'est essentiellement des sujets que j'ai déjà bien suivis avant. Je ne vais pas partir de zéro demain sur un truc qu'on me demande de faire, je ne peux pas, enfin,
Bah
c'est
tu peux
trop
pas
de
en
temps.
parler de ton doctorat quoi.
Ouais, non, clairement pas. Non. Et on a une question assez précise de CKOS84 qui demande, vous avez très peu parlé du risque de mitigation deterrence et des nombreux papiers sur le sujet, pourquoi? Moi, j'ai ouais, une petite poignée de papier qui parle de mitigation. Alors, Jean va expliquer. Mitigation deterrence, c'est grosso modo l'idée que, en parlant de l'élimination du dioxyde de carbone, on ralentit ou on distrait de l'atténuation qu'il y a à faire. Et perso, les papiers que j'ai vus, ils parlaient justement plutôt de risque, mais ils ne le démontraient pas qu'on trouvait cet effet-là. Et d'autres questionnaient cet effet-là. Donc j'ai laissé ça de côté, c'est dans un coin du script brouillon. Je ne l'ai pas intégré parce que pour l'instant, ça ne remonte pas typiquement dans les résumés du GIEC. Ce n'est pas un risque qui a l'air très avéré, mais c'est un risque qui pourrait potentiellement exister, clairement. Je trouve qu'il existe plus sur la CCS. Ça, si tu veux rapidement parler de la CCS versus le DC, on peut faire un petit récap. Je sais que c'est encore un truc
Ouais,
pas très très
et
clair.
j'ai vu dans les commentaires ou dans certaines questions que c'était pas toujours très clair. Donc en fait, l'élimination du carbone, il y a plusieurs conditions, mais il faut qu'on aille chercher du CO2 dans l'atmosphère, qu'on le stocke de manière pérenne et que ça soit une activité liée à des. Enfin, que ça soit une activité humaine volontaire, quoi, que ça soit un processus additionnel à ce qui existe. Et du coup, voilà, l'idée c'est vraiment on prend du CO2 de l'atmosphère et on le stocke. Donc on en retire. D'où en anglais un hein, carbon dioxide removal, c'est vraiment cette action de retrait. Et souvent c'est confondu, mélangé avec la capture et séquestration de carbone, où en fait à un endroit donné, aciérie, cimenterie, mais plus souvent encore des centrales fossiles, des centrales électriques fossiles, on va brûler du charbon, du pétrole, du gaz, et donc on a du CO2 qui est très concentré, et ce CO2-là, on le récupère à la sortie de la cheminée pour pas qu'il finisse dans l'atmosphère, et on le séquestre de manière durable. Et en fait, dans ce cas-là, ben, on retire pas du CO2 de l'atmosphère, mais on empêche que le CO2 atteigne l'atmosphère. Donc c'est pas une élimination du carbone, c'est plutôt des émissions évitées. Et là, pour le coup, on comprend très clairement pourquoi l'industrie fossile peut pousser à ça, par exemple, parce que ça peut permettre de continuer d'utiliser des fossiles sans que le CO2 atteigne l'atmosphère. Donc là, le risque de mitigation deterrence, du coup, il est plus facile à comprendre, et surtout qu'on voit que l'industrie fossile a quand même pas mal poussé à ça en n'en faisant pas du tout. Hein, donc, continue de promettre et de ne pas délivrer. Donc là, faut vraiment se méfier. Et pour finir sur cette question, je pense qu'on a quand même bien insisté dans la vidéo sur le fait que faut pas croire que cette élimination du carbone nous permettrait de ne pas réduire les émissions. Voilà, toutes les études sont très claires là-dessus. La majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, de l'atténuation, ce sont des réductions d'émissions. Donc faut veiller effectivement à ce que ça ne soit pas compris comme une manière de ne pas réduire. Et même vu le prix, les impacts de ces méthodes d'élimination, elles n'ont de sens que si on réduit énormément les émissions. Donc je pense qu'on a essayé quand même pas mal d'aborder. Je pense que c'est un point central de la vidéo qu'on répète à plusieurs moments, quoi. Et voilà.
J'arrive le chat. C'est quoi? Il dit le risque de mitigation de terrain se remet dans le dernier rapport. Ouais, je veux bien avoir la ref si c'est dans le résumé, parce que je me souviens plus très bien. Moi, ça fait un an que j'étais là-dessus, à peu près. C'est possible que dans le rapport complet, ça c'est sûr que ça y est, ils en parlent, parce que c'est là-dedans que j'ai trouvé. Nous, on a, enfin, moi, personnellement, en tout cas, quand j'ai écrit, j'ai choisi de parler surtout de ce que vient de dire Rodolphe, c'est-à-dire l'importance d'avoir l'atténuation en parallèle du développement de la CDR qui n'a aucun, enfin de l'EDC qui n'a aucun sens s'il n'y a pas l'atténuation radicale à côté qui est faite. Donc je me suis dit que comme on a insisté énormément là-dessus, je ne rajoutais pas une pièce sur le risque de mitigation deterrence qui rallongeait encore la vidéo. Enfin, il y a des moments où on fait des choix aussi sur les sujets qu'on aborde. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. On n'a pas développé sur les questions de justice climatique, on n'a pas développé sur les politiques publiques. Ou d'appui en tout cas et de soutien au développement de l'essai. Toutes ces choses-là, on les a gardées pour éventuellement plus tard si ça intéresse. Parce que si ça intéresse personne, on va pas s'embêter à refaire un an de travail sur des choses qui vont faire 4000 vues. Ouais, il y a quand même des choix éditoriaux sur ce qu'on traite là dans une vidéo qu'on considère comme étant ce qui est nécessaire pour comprendre le sujet pour qui ça intéresse.
Ouais, et je pense qu'il y a des aspects de cette question qu'on a essayé d'aborder quand même. Tu vois, quand on parle par exemple du fait qu'on devrait comptabiliser séparément l'élimination du carbone et les émissions, c'est bien pour éviter de cacher une moindre ambition sur la réduction derrière des promesses pas tenables sur l'élimination, quoi. Donc je pense quand même qu'on peut défendre que on en parle un petit peu en filigrane, qu'on traite des aspects de cette question en tout cas.
Ouais. Là, l'étude qui était que CK aussi nous a envoyée, je la connais pas, elle est sortie en novembre. Ça, typiquement, on avait déjà fini le script à ce moment-là. Moi, il y a eu un moment où, dans l'écriture du script, j'ai dit, j'arrête d'intégrer de nouveaux papiers, sinon je m'en sors pas. Parce qu'en fait, il sort, si vous suivez le sujet EDC, il en sort, je sais pas, il en sortira 50 à 70 par mois, à peu près, et encore, peut-être sûrement plus. Donc, j'ai essayé quand même de prendre les gros qui sortaient, qui étaient importants dans l'année, mais après, il y a un moment où j'ai fait, bah, allez, stop, si on arrête, sinon on s'en sort pas. S'il y a un moment où il faut attendre le prochain rapport du GIEC pour avoir la synthèse de ce qui est sorti entre deux rapports, quoi. Mais on a bien reposé sur l'AR6, on a essayé d'intégrer quelques trucs post-AR6, donc 2023 et début 2024, puis après on a fait une pause. Mais s'il y en a que ça intéresse, sur Discord, on peut en discuter. Je dois pouvoir retrouver dans le brouillon du script les papiers sur la mitigation deterrence que j'avais mis de côté.
Et Loïc, tu es sur un ballon là.
Oui, je suis en Suisse et je suis sur un Swiss ball. C'est vrai que j'ai ressorti mon ballon.
Alors du coup, on peut peut-être reprendre la question. Matodif disait, merci beaucoup pour le coup. Je crois qu'on est entre 3 et 4 MWh la tonne de CO2 captée, mais pas stockée. Tout dépend du prix du mégawattheure. Ah, il répondait peut-être à quelqu'un, je sais pas. Le coût, j'avoue, on n'a pas vraiment une partie là-dessus, mais c'est un peu incertain et ça dépend beaucoup des technologies. Donc ça dépend de quoi on parle. Je sais pas vraiment à qui répondre. Et on avait la question un peu sur l'actualité. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant? Tu veux qu'on en parle plus tard?
Un peu comme ça, c'est fait. Ça a été les
Bonjour.
premiers retours que tu as eu, non?
Moi j'ai eu des. Alors il y a pas mal de commentaires ouais, qui ressemblent à. De toute façon, vu ce qui se passe aux États-Unis, c'est mort ou. Comment on peut croire ou considérer que c'est encore utile de faire quelque chose quand on voit ce que fait Trump? Et là, on a une question plus précise sur avez-vous vu l'actu concernant l'arrêt du suivi des émissions de GES de la NOAA et quelle gravité alternative selon vous? On a vu l'actu, c'est quand même assez fou hein, ce qui se passe aux États-Unis avec une couverture médiatique qui traîne un petit peu, hein, notamment à parler de ce que fait Musk là. À aller à plein d'endroits où il devrait pas aller, où il n'a pas les droits d'arrêter, à arrêter des trucs. C'est quand même assez coup d'état bizarre. Et après, ouais, je suis content de ne pas être aux États-Unis déjà, ou de ne pas être un chercheur aux États-Unis. Mais ouais, grosse attaque hein, assez rapide hein, sur différentes questions, notamment les questions de genre, etc. Qu'on traite pas sur la chaîne, mais aussi sur les questions de climat, hein, de façon très très ouverte. Hein. Il y a des décrets qui sont signés en disant qu'il faut supprimer les termes changement climatique et les données y afférents et tout. Donc ça va vite, hein. Ça va vite quand même. Hein. Plus efficace que le mandat précédent. Après la bière dit est-ce qu'il faudrait pas des vidéos sur l'espoir en ce moment? Bah, on peut aller voir les vidéos d'après la bière et Maxime sur l'espoir. Maxime qu'on avait reçu pour parler de cette vidéo ici. Ouais, t'en penses quoi toi Loïc de cette évolution aux États-Unis là?
C'est terrifiant, c'est dramatique. Moi, j'ai essayé de suivre du mieux que je peux, mais je sais pas, je manque de temps un petit peu. Après, je connais un peu des gens là-bas, donc j'ai aussi des échos de ce côté-là. Oui, j'ai vu l'actu sur la NOAA, mais enfin, celle-là, ça fait partie d'un package, juste. Il y a plein de choses autour qui sont dramatiques, que soit rien que sur le climat, et évidemment encore plus quand on englobe tout le reste. Ouais. Mais la question, c'était, est-ce que, par exemple, l'élection de Trump remet en question tout ce qu'on a présenté dans la vidéo? Ça, c'est plus compliqué à répondre. Si tu veux répondre à ça, Rodolphe, ou...
Bah, je pense pas. En fait, c'est vrai qu'il y a eu des remarques aussi sur 1,5, 2 degrés, etc. Que ce sont des scénarios qui sont pas tenables, mais enfin, ça change pas des résultats importants de la vidéo, notamment que y a pas de neutralité carbone sans élimination du dioxyde de carbone atmosphérique, quoi. On pourrait essayer de le limiter qu'à la forestation, la reforestation, qui sont souvent mieux perçus que des leviers plus technologiques, mais ça me paraît assez important. Les questions de stabilité du climat, si on atteint la neutralité, etc., c'est assez important. Et après, est-ce qu'on atteindra la neutralité? Bah, ça, forcément, des décisions politiques aussi importantes dans un pays qui émet autant que les États-Unis, ça a une influence. Ça peut la décaler, ça peut. Mais ça, c'est très dur à savoir, surtout sur un temps aussi court. En tout cas, ça va dans le mauvais sens, hein. Ça fait une différence pour les émissions des États-Unis, Trump ou pas Trump. Je pense que c'est dur de défendre l'inverse. Donc voilà, ça change un peu sur quel scénario de réduction on peut parier, mais tout dépend de comment la société civile s'organise, tout dépend de qui est là après lui, tout dépend de quel dommage il arrive à faire. Je sais pas dire quelque chose de beaucoup plus pertinent. Tu veux dire quoi, Loïc?
C'est terrifiant sur le très court terme. Moi, ça m'inquiète plus sur les aspects sociaux que climatiques, honnêtement. Je pense que je commence à un peu peut-être à me mettre de plus en plus dans la vision des chercheurs qui bossent sur le sujet climatique depuis longtemps maintenant, et qui ont, notamment dans ceux qui bossent dans les projections climatiques, les scénarios et l'EDC, ils se projettent, eux, à beaucoup plus à long terme. Ils savent que bah là, c'est un mandat et qu'après, il y en aura sûrement un autre et qu'il se passera d'autres choses dans le monde, etc. Et comme ils se projettent vraiment sur atteindre une neutralité carbone, stabiliser le climat, etc. Dis-moi, t'as un bébé chez toi, non?
Ouais,
Elle va bien.
ça va, ça va. Pleine forme.
Ouais, donc il faut pas. Enfin, je sais pas, il faut pas. C'est dur à dire, mais. On sait que si on veut stabiliser le climat à une température donnée, un peu quelle qu'elle soit, il faut atteindre la neutralité. Donc, il faudra développer de l'élimination dans une certaine mesure, quelle que soit la température qu'on veut stabiliser. Et ensuite, si on veut faire descendre la température, ce qui est une projection sociétale à très long terme, vraiment au 22e siècle, quoi, il en faudra aussi. Donc, c'est dans ces temporalités-là que ces chercheurs, ils réfléchissent et ils travaillent. Et je pense que ça, des fois, ça aide un peu à relativiser ce qui se passe à très court terme. Et à l'échelle du climat, le mandat de Trump, c'est du très court terme. Dramatique, hein,
Ouais.
mais c'est pas la fin de l'histoire et c'est pas la fin du siècle, loin de là.
Ah merde, je pensais qu'on avait une excuse pour que je fasse une chaîne de gaming. Je vais peut-être un Civilization qui sort bientôt là, ça va être l'occasion de faire des lives peut-être. Et Francis Poulton demande, est-ce que les mesures de CO2 PPM vont être impactées? Elles étaient faites en partie en territoire US. Bah, je pense que c'est pas les seuls à en faire. Est-ce qu'on peut en faire partout sur Terre? En fait, il y a des observatoires partout. C'est vrai qu'on parle souvent de Mauna Loa, mais pour moi, il y a des points de mesure un peu partout dans le monde. Avec l'avantage en plus que le CO2 se mélange assez vite dans l'atmosphère. Donc en fait, vous pouvez le suivre même si vous ne regardez pas toujours au même endroit. Alors il y a des effets un peu de latitude sur comment dire, l'intersaisonnalité, hein. Je l'avais montré dans la vidéo sur le cycle du carbone. En fait, quand vous êtes aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, il y a une variabilité naturelle, vraiment une sinusoïde, suivant les saisons, et vous l'observez beaucoup moins dans l'hémisphère sud. Donc, suivant où vous êtes, vous avez cet effet-là, mais sur la moyenne annuelle, c'est la même à peu près partout. Et après, voilà, comment ils vont s'organiser, les chercheurs, pour publier, garder leurs données, etc. Ben là, c'est une question qui est assez délicate, mais enfin, je sais pas. Je suis peut-être optimiste, mais ça me paraît difficile d'imaginer que des relevés satellitaires, par exemple, américains soient perdus ou qu'on arrête de les suivre. Ça serait possible, mais ça serait quand même ouf, hein.
Alors moi, j'ai pas assez suivi ça pour l'instant. Bah après, il existe d'autres institutions dans le monde, mais
En tout cas, ouais, vraiment pour
bah.
des mesures de CO2, il y en a quand même ailleurs. Ça nous motivera peut-être à faire encore plus attention chez nous.
Oui. Puis ça, c'est limite anecdotique par rapport au problème global qui est que pour l'instant, ils ne vont pas du tout faire d'efforts dans la bonne direction pendant 4 ans.
Ouais, ils vont essayer de tout casser, de tout freiner. Et faut s'organiser. Enfin, je pense que. Je sais pas si t'as vu passer, mais il y a un manuel qui montre comment saboter un peu.
J'avais
Sans
déjà vu
vraiment
avant,
saboter.
c'est marrant, et qu'il ressorti un peu à cette
Ouais,
occasion-là.
ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a des gens qui postaient des passages sur Blue Sky là. Et en fait, quand tu le lis, t'as des trucs qui ressemblent beaucoup à ce que mes collègues en entreprise parlent de leur fonctionnement normal, quoi. Faut organiser des réunions qui servent à rien, essayer de capter le maximum d'attention, parler pour ne rien dire, bourrer la photocopieuse. Enfin, c'est force de friction partout. Non, c'est pas évident. Je sais pas ce que je ferais dans leur situation. Je trouve ça incroyable. Enfin. C'est pas incroyable dans le sens où il fait ce qu'il a dit qu'il ferait, et on savait que cette fois-ci il arrivait beaucoup mieux préparé que pour le dernier mandat. Donc en fait, il se passe ce à quoi on s'attendait avec cette élection, mais ça va quand même très très vite, quoi. Hein, Salim Nazy à une inauguration, c'était quand même un peu inattendu, quoi. Hein, ça va vite. Ça va vite. Mais bon, là-dessus, sur l'actualité politique, je pense qu'il y aura. Il y aura des chaînes plus intéressantes que moi en live. Vous pouvez regarder Rhinocéros, par exemple, qui a fait une vidéo sur le sujet assez récemment.
Et en gros, sur la vidéo, si on veut faire une synthèse de ce qu'on peut retenir malgré l'élection de Trump, toute la première partie, c'est la réaction du climat à l'atténuation des émissions. Ça change pas. Il faut baisser drastiquement les émissions pour atteindre la neutralité carbone, pour stabiliser la température à un certain niveau qui dépend du cumul des émissions passées. Et ensuite, les méthodes elles-mêmes et leurs avantages et inconvénients, ça change pas non plus des masses, hein. Ce qui change, c'est l'éventuel développement des méthodes d'élimination aux États-Unis, qui serait censé être un gros acteur dans des scénarios d'atténuation forte avec développement d'élimination. Il y a eu un énorme rapport qui doit faire 1000 pages sur les possibilités d'élimination aux États-Unis. Il pourrait monter jusqu'à 1 gigatonne de capture, je crois, un truc comme ça, c'est assez énorme. Ça, j'en ai même pas parlé, parce que on rentrait déjà trop dans le détail, et nous, on est resté encore au niveau macro. Mais il y a énormément de travail à des niveaux nationaux ou régionaux dans le DC maintenant.
Et il y avait eu du fléchage, notamment de Biden, non, sur des projets d'émissions négatives.
Alors, ils avaient de la DAC notamment. Je me souviens plus très bien, il y avait et de la CCS et de la Direct Air Capture, je crois. Je sais plus, c'est de la reforestation, des choses comme ça. Je connais plus ce côté atténuation classique sur
Donc ouais,
l'Inflation Reduction Act.
ça peut affecter les efforts d'atténuation aux États-Unis et peut-être ailleurs, hein, parce qu'on peut pas exclure qu'il y ait un effet de contagion, hein, et qu'on soit un peu sur un retrait des engagements climatiques. Donc peut-être que ça peut se propager ailleurs des États-Unis et puis sur les efforts de déploiement ou de développement de ces technologies-là. Après, le panorama reste le même et ce qu'on dit sur le climat et le sujet du carbone, ça reste le même, quoi. Alors, Nayosh nous dit, dans la vidéo, il est dit que les émissions négatives n'auront lieu en quantité significative que plus tard, lorsque les moyens de réduction d'émissions moins chers seront déjà en place. En êtes-vous sûr? Ce serait le plus économiquement rationnel, mais serons-nous rationnels?
Si moi
Ouais.
je peux expliquer pourquoi c'est comme ça dans les scénarios, si
Ouais.
jamais.
Ouais, vas-y.
Dans les scénarios, dans les modèles, le modèle, on lui met des postulats de développement technologique et grosso modo, on traduit en évolution des coûts. Donc, on postule une certaine évolution des coûts de l'élimination et des différentes méthodes d'élimination. Typiquement, la forestation est déjà pas très chère, tandis que la BEX ou la DAX, elle est chère et elle reste encore chère pour un certain temps. Dans le même temps, on a une évolution des prix des moyens d'atténuation classiques, hein, renouvelables, etc. Et le modèle, il optimise pour trouver la trajectoire la moins chère, ce qui fait qu'un peu mécaniquement, même si on fait plein de scénarios, il se retrouve un peu avec le même style de choses. On a pas mal de développement d'élimination de type classique en court terme, donc de la forêt, de la forestation. Et plus tard dans le siècle, quand le coût des autres méthodes de type BEX, DAX, etc. baisse, on a un peu une inversion. Tandis que le reste se développe à fond. C'est ça qui se passe grosso modo, et c'est ça qui fait qu'on a ces courbes-là. C'est les trajectoires que le modèle arrive à pondre pour obtenir un certain état climatique donné. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer, ça ne veut pas dire que c'est le seul moyen de le faire, c'est juste ce qu'on a actuellement comme réponse de modèle quand on lui demande comment on fait pour obtenir ce état climatique.
Mais ce serait vraiment étonnant qu'on ait l'élimination du carbone coûteuse alors qu'on n'attaque pas des réductions peu coûteuses, parce que l'élimination du carbone coûteuse, en fait, il n'y a pas d'intérêt économique derrière. Vous vendez pas quelque chose, quoi. Donc le seul truc que vous vendez, c'est de sortir du CO2. Une entreprise ou un État qui veut sortir du CO2 ira vers le moins cher. Vous voyez, c'est pas comme si c'était accompagné d'une production qui aurait un intérêt par ailleurs, où il y aurait des intérêts privés qui pousseraient ça, etc. C'est vraiment. Il y a peu de chances que quelque chose de coûteux se développe alors que c'est juste je sais pas comment dire, un intérêt commun, quoi. Je sais pas si c'est très clair comme réponse, mais Du coup, l'élimination du carbone, pour l'instant, on l'envisage surtout comme avec une intervention assez forte des États, que ce soit directement ou indirectement, avec l'organisation d'un marché, etc., et de mettre des contraintes d'élimination, quoi. C'est pas quelque chose qui se fera spontanément. C'est parce que ça a un coût et ça a des impacts de retirer CO2 de l'atmosphère, et le bénéfice, bah, c'est un bénéfice pour tous, mais qui est monnayé par personne. Enfin, c'est juste un problème d'économie et de gestion de biens communs, quoi. C'est vraiment pas clair ce que je viens de dire, mais il y avait des idées dedans quand même.
Je pense que la question correspond un peu à l'endroit dans la vidéo où on a repris la figure du blog de, je crois que c'est Robert qui s'appelle, Hoglund, qui Glenn Peters dit la même chose, c'est que ça n'a pas de sens de faire plein de décès en même temps qu'on a plein d'émissions qui pourraient être atténuées pour des coûts bien moins chers que le décès qu'elles compensent. Enfin, ça ne se passera pas comme ça. C'est soit il y aura des émissions élevées et peu de décès, soit on fera un scénario d'atténuation digne de ce nom, ce dont on ne prend pas tout à fait le chemin pour l'instant.
Ouais. Alors, Caroline Biomine dit Hello, oui, je demande si le DAC par Heirloom n'avait pas reçu un gros financement sous Biden, probablement. Les projets de décarbonation du ciment voient leur financement en stand-by pour l'instant suite à l'arrivée de Trump. Donc, effectivement, il y a des trucs voilà, qui sont. Et ça peut décaler dans le temps la maturité de ces technologies, quoi, parce qu'on repousse les premières étapes, donc ça peut être quelque chose de gênant, ouais.
Moi, je peux parler 2 secondes de comment ça se passe en ce moment à l'administration américaine pour des raisons personnelles, je connais un petit peu. En gros, ils ont essayé de mettre dans les tuyaux de dépenses tout ce qu'ils pouvaient de la loi climat, dans tous les niveaux et dans tous les budgets qu'il y avait, les 300 milliards et quelques. Parce qu'une fois que c'est parti dans les tuyaux du ministère Treasury, il y a un certain moment où après, normalement, ils ne peuvent pas revenir dessus, l'administration suivante. Et ce qu'a fait l'administration de Trump en arrivant le jour même du 20 janvier, c'était d'avoir toutes ces personnes qui venaient dans les bureaux pour couper tout ce qui n'avait pas encore été envoyé. Donc tout ce qui était en cours a été coupé. Et ils ont même coupé un peu plus loin. Donc il va y avoir des procès, il va y avoir il y avoir des juges qui vont devoir acter de si c'était faisable ou pas, est-ce qu'ils avaient le droit de faire ça, etc. Donc ouais, ils ont coupé tous les financements qui étaient en cours et qui n'avaient pas été encore suffisamment envoyés assez rapidement à ceux qui allaient en bénéficier. De manière assez résumée.
C'est super. 7-6-X-1 dit le biochar, c'est pas coûteux. Alors c'est vrai qu'il y a des. Dans ces méthodes, il y en a qui sont moins coûteuses, hein, notamment la forestation. Le biochar, je me souviens plus exactement, mais c'est possible que ça soit pas très coûteux ou que ça soit financé par certains co-bénéfices. Mais c'est juste que avec les volumes qui sont projetés pour l'instant, ça suffirait pas pour. Donc quand on parle d'élimination du carbone coûteux, c'est plus des méthodes technologiques qui seraient obligées de s'ajouter quoi. Aujourd'hui, vous prenez la forestation, la reforestation et d'autres méthodes qui ne sont pas très coûteuses, vous êtes très très loin de ce qu'on a en termes d'émissions, quoi. Et donc, dans l'image, hein, qu'on utilisait, on voyait déjà qu'il y avait un bandeau qui existe déjà aujourd'hui, on en parle dans la vidéo, il y a déjà l'émission du carbone, et c'est justement parce que ce sont des choses qui sont pas coûteuses ou qui ont des intérêts par ailleurs. Mais si on veut faire grossir ce bandeau, on fait vite augmenter les prix, quoi. Et Francis Poulton demande, est-ce que vous savez comment ces scénarios de développement de ces différentes méthodes de capture et stockage vont être modifiés dans la R7 par rapport à la R6?
Moi, j'ai pas de grande idée là-dessus parce que c'est en cours de travail. Il n'y a pas encore beaucoup de papiers qui ont été publiés.
Et on voit pas l'avenir pour l'instant.
Exactement. Moi, je suis plus dans ce domaine-là, donc je n'irai pas à la grosse conférence cette fois-ci qui aura lieu cet été, je crois, qui s'appelle le Scénario Forum, qui avait eu il y a 2 ans maintenant, 3 ans, où ceux que ça intéresse et qui veulent payer pour y aller peuvent s'inscrire pour aller voir ce qu'ils ils auront un aperçu des prochains scénarios du prochain rapport du GIEC. Mais ces choses sont en cours de travail. Après, nous, c'est vrai que bah, dans la veille, l'année dernière, on a vu sortir pas mal de papiers, dont certains qu'on a repris, de gens qui ont fait tourner des modèles avec plus de méthodes de décès. Donc je pense que ce qu'on aura, c'est, si vous avez regardé la vidéo, vous avez vu que dans les scénarios, on a souvent soit de la BEC, soit de la forestation, et rarement autre chose. Rarement un peu de DAC, mais c'est tout. Alors que quand on vous présente les méthodes, on en a, je crois, 12, 15 par là. Donc dans les modèles, il y a peu de méthodes de décès qui sont représentées. Parce que c'est très récent, parce qu'on ne sait pas encore exactement comment ça va évoluer, on ne connaît pas tout à fait le potentiel. Donc jusqu'ici, dans un modèle, on représente ce qu'on est capable de quantifier, sinon on ne peut pas le mettre. C'est pour ça qu'il y a des choses qui manquent dans les modèles. Le permafrost, dans certains modèles du climat, etc. Et là, c'était un peu ça le sujet. Donc en ce moment, on a de plus en plus de modèles qui intègrent de plus en plus de méthodes de décès. Donc moi, je pense que déjà, on aura des scénarios issus de modèles plus développés, avec beaucoup plus de diversité. Et dans le même temps, on a aussi des gens qui essaient de travailler à réduire au maximum les émissions parce qu'on a de plus en plus de connaissances sur le décès d'un côté, mais aussi sur ce qu'on est capable de décarboner de plus en plus. Et on a de plus en plus d'idées de l'évolution possible des prix. Donc on peut mettre à jour les modèles, intégrer ça. Typiquement, beaucoup, je pense, ici savent que on aurait sous-estimé les évolutions des renouvelables, surtout du solaire dans le passé. Parce que dans le passé, on n'avait pas de boule de cristal pour savoir comment ça évoluait. Donc, on met à jour les modèles, on se rend compte qu'on pourrait développer plus vite certaines choses. Et ça va nous donner des scénarios intéressants. Je pense qu'on pourrait avoir des potentiels de réduction forte des émissions d'un côté, ce qui limiterait les besoins d'EDC de l'autre. Et en face, dans l'EDC, on met un portfolio de méthodes. Et ça, c'est plus réaliste que ce qu'on a actuellement dans les scénarios. Donc, je pense qu'on aura ce genre de choses.
Et puis il y a quand même, enfin moi c'est la vision, mais je me plante peut-être. C'est, j'espère que d'ici à l'R7 on aura passé le pic des émissions mondiales, et ça mettra un peu le sujet dans une autre dynamique aussi, je pense, notamment sa perception par le public. Aujourd'hui, il y a une partie du public qui a l'impression que c'est très décorrélé de la réalité, parce qu'on a des émissions qui continuent d'augmenter, quoi. Donc on verra un peu plus ce qui se passe sur les renouvelables, et on verra si les émissions mondiales commencent à aller ça n'arrivera pas à la bonne
Garde.
vitesse, mais au moins dans la bonne direction, parce que
Ouais,
pour l'instant
faut pas
ça
être
monte, quoi.
plafonné.
Et
Par
j'espère
contre, on sait.
vraiment qu'on l'aura passé d'ici la R7 quand même, hein, parce que sinon je me fatiguerai du sujet, je pense, hein.
C'est une bonne question qui me permet de dire un truc qu'on n'a pas eu le temps de caler dans la vidéo parce que c'était déjà très long. Mais il y en a des gens qui ont étudié l'évolution des quantités moyennes et dans certains postulats de méthodes de DC et de CCS dans les scénarios. Ils ont comparé à R5, donc le rapport de 2014, Special Report 1.5 de 2018 et à R6. Et on voit que particulièrement entre le SR 1.5 et la R6, on a une réduction moyenne de la quantité de DC dans les scénarios. Notamment parce que dans le passé, il y a eu ces espèces de scénarios un peu aberrants dont on parle dans la vidéo où il y a eu beaucoup de BEX, ce qui a causé des discussions sans fin, mais qu'il fallait
Justifié,
avoir très justifié dans la recherche. Et pas mal de gens qui faisaient des modèles et qui faisaient des scénarios ont essayé de trouver des moyens de limiter les quantités de DC pour pouvoir produire des scénarios potentiellement plus réalistes, ou en tout cas moins aberrants de ce côté-là. Et la quantité moyenne de DC, du coup, est inférieure dans la R6 par rapport au SR 1.5. Ce qui est le discours inverse de certaines personnes influentes en France qui vous parlent des scénarios d'atténuation. Je ne donnerai pas de nom, mais
Non,
je
non,
vous le dis.
non, on essaie de garder des
On
amitiés dans
verra
le
ça.
milieu, donc on donne plus de noms.
Exactement, oui.
Ouais, ok. Donc j'ai quand même une pensée émue pour des personnes qui seraient sur Twitch, là, qui sortent d'un, je sais pas, d'une partie de Teamfight Tactics, et qui arrivent pour écouter les 2 dernières minutes, parce que là, ils ont pris cher, je pense. Mais voilà, je crois qu'on a rattrapé un peu les questions. Est-ce qu'il y avait des trucs que tu voulais aborder, des sujets que tu t'es noté?
Moi j'avais des questions pour toi, je crois que j'avais noté. Qu'est-ce que
Ah,
j'en ai fait
vas-y,
déjà?
je t'écoute.
Oui, je voulais te demander, toi tu connaissais bien ce sujet ou un peu ce sujet avant qu'on attaque ou pas
Je connaissais
vraiment?
un peu le sujet, j'avais regardé rapidement, et si dans, je pense que dans la vulgarisation qu'on n'a pas évoquée, par exemple, il y avait une vidéo du Monde sur la DAC qui était sortie peut-être il y a 1 an. Donc je connaissais un petit peu le sujet. Ouais. Peut-être des questions plus précises, où je dis ce que je pense que je me souvenais du sujet. Moi, y a un truc que j'essaye notamment d'expliquer à mes élèves, c'est notamment les limites de l'afforestation et la reforestation. Et je pense que là-dessus, j'ai un peu revu le sujet à la hausse. Enfin, j'étais plus négatif que ça sur l'afforestation et la reforestation. Et notamment, je ne me rendais pas compte que c'était déjà significatif aujourd'hui. Parce que souvent, tu regardes, comment dire, tu as le net de l'usage des terres, et tu vois pas ce qui se passe
Positif,
au
ouais.
niveau reforestation, afforestation, parce que le net, il est négatif. Parce qu'on fait de la forestation d'un côté, mais on déforeste plus
Non,
au
le net
niveau
est
global.
positif du coup.
Le net est positif au niveau global?
Ça dépend sur ce que tu regardes, mais en secteur d'usage des terres,
Ouais.
c'est positif au sens émission, c'est ça? Je ne comprends pas.
Oui, c'est positif au sens émission. Pour l'instant, le secteur des terres,
Ok,
c'est
ouais,
émission au
c'est
niveau
ok.
global. Oui, bah. Donc pour l'instant, il y a plus de déforestation que de reforestation. Et du coup, vu que j'avais bien cette idée-là, je ne m'étais pas rendu compte que si tu regardes spécifiquement afforestation, reforestation, c'est déjà des volumes qui sont conséquents. Et du coup, ça fait qu'on a un levier à court terme qui est assez important. Si évidemment, on arrête la déforestation aussi, quoi. Merci à Hamster of Pi pour l'abonnement Prime. Mais aux élèves, tu vois, j'expliquais que, ok, mais faut pas croire que les forêts, ce sont des aspirateurs à CO2. En fait, la forêt, elle va capter du carbone. Quand il y a un déséquilibre, déjà, elle peut capter une partie. Et puis, une fois qu'elle est arrivée à maturité, si le CO2 est à peu près stable dans l'atmosphère, eh ben, elle émet à peu près autant, parce qu'elle respire, hein, que ce qu'elle absorbe. Et donc, c'est une méthode qui est limitée par nature, qui est limitée par les surfaces disponibles de forêts. Et du coup, mettre en avant les forêts pour rejeter les autres possibilités, c'est un peu problématique.
Sauf si tu fais de la monoculture, que tu coupes toutes les...
Sauf si tu fais de la BEX, etc. Évidemment, mais. Et ça, on l'a montré dans la vidéo avec notre. Enfin, on a insisté, hein, sur la pérennité,
Oui,
etc.
je
Mais
vais
si.
avouer un truc. Je suis assez énervé par les posts un peu putaclic et simplistes qu'on a régulièrement qui disent arrêtez de nous saouler avec vos méthodes technologiques de capture du carbone alors qu'on a un truc naturel qui capte le carbone, ça s'appelle les arbres. Ça m'énerve. Perso, ça me tend maintenant parce que...
Ouais, bah moi aussi, donc j'étais un peu dans ce truc-là, mais au point de pas prendre au sérieux le potentiel de la forestation. Enfin, de pas avoir conscience de ce potentiel-là. Donc ça j'ai quand même pas mal revu à la hausse. Après, il y a des méthodes dans ce panorama que je connaissais un peu mieux que d'autres, et d'autres que je connaissais vraiment pas du tout. Dont des méthodes dont on n'a pas parlé, parce que j'avais regardé un petit peu à un moment, quand j'étais sur le sud du carbone, j'avais regardé. En Hans Wavering, là, l'altération forcée, donc l'idée de pouvoir mettre des minéraux, les broyer, les étendre, et que ça retire du CO2 de l'atmosphère par des réactions dont je parlais un peu dans la vidéo sur le cycle du carbone. Donc ça, il y a des méthodes, voilà, que je connaissais déjà un peu, sans forcément avoir une idée sur le potentiel, le coût, etc. Et après, quoi d'autre? Ouais, je pense que j'ai clarifié ce truc de c'est indispensable, même si j'en étais déjà assez... conscient, parce que bah, je sais qu'il y a ces émissions résiduelles, mais je ne savais pas que c'était aussi clairement écrit dans les rapports du GIEC, surtout quand on voit les discours un peu caricaturaux qu'on a là-dessus, qui sont en décalage, je pense,
Oui, il y a
avec le
littéralement
consensus
écrit
commun.
unavoidable, ce qui veut dire inévitable, on va dire, dans un paragraphe principal du groupe 3.
Donc c'est quand même un argument assez fort des personnes qui essayent de pousser ça. Et après, il y a cette question, voilà, de faut pas détourner l'attention de la réduction d'émissions. Donc ça, c'était un point que j'avais clairement en tête aussi. J'étais pas du tout dans une croyance que ça pouvait être à la hauteur des émissions d'aujourd'hui. Donc c'est pareil, tu vois, j'étais quand même. Bah maintenant, j'ai vu que j'ai touché à plein de sujets différents, je connais un peu ce qu'il y a entre les sujets aussi. Et puis j'ai pu lire des synthèses à droite, à gauche, à droite. Ce qui fait que la question la plus intéressante, c'est plus qu'est-ce que vraiment j'ai appris. Il y avait des méthodes que je connaissais pas. Sur la forestation, reforestation, j'ai mieux compris les choses. Sur les autres impacts, ça aussi c'était une partie intéressante. Et puis il y avait toute la partie historique, qu'est-ce qui s'est passé dans les scénarios. J'étais conscient qu'il y avait eu un peu des délires avec la BEX et qu'il y avait eu des volumes très importants dans certains scénarios, mais j'étais pas conscient que ça avait été à ce point critiqué au sein de la littérature scientifique. J'étais resté au niveau de quelques influenceurs qui nous disent oh, regardez les scientifiques, ils savent pas ce qu'ils font, sans se rendre compte que bah, cette critique, elle existait au sein de la communauté scientifique, et en fait ça s'est adapté relativement rapidement.
C'était tout de suite, hein. Enfin, vraiment, Glenn
Ouais.
Peters et Kevin Anderson, c'est 2016, quoi. C'est le Moyen-Âge presque en termes de Integrated Assessment Models. Donc, elle était là tout de suite, elle était beaucoup plus quali que ce qu'on entend maintenant. Les autres ont tenu compte, ils ont rajusté. Enfin, les autres, des fois, c'était les mêmes. Hein. Il y a des gens, ils ont publié ces scénarios tout en les critiquant même, tout en disant, bah, en fait,
Ouais.
c'est un peu une preuve par l'absurde de que ce qu'on
Ouais,
veut
mais
arriver à
c'est.
tenir, c'est.
Ouais, ça je l'ai dit dans la vidéo, et c'est un peu comme ça que je le vois aussi. Enfin, faut pas croire que les scénarios qui sont modélisés ont vocation à être réalistes, quoi. Des fois, ils ont vocation à montrer justement que cet avenir-là, il est très peu probable pour différentes raisons, ou pas souhaitable. C'est vraiment c'est des hypothèses de.
Un scénario, c'est une démonstration de ce qui se passe si on fait des choses. C'est pas une prédiction de l'avenir. Et ça, il y a beaucoup de gens aussi qui ont du mal à comprendre ça. Quand on vous montre un scénario avec beaucoup de BEX, on vous dit, ben, vous voulez 1,5 et vous voulez pas baisser les émissions très radicalement. On a un truc qui peut permettre de le faire. C'est le seul truc qu'on a sous la main. Ça fait ça. Ça fait cette quantité-là dont vous aurez besoin pour suivre cette trajectoire-là. Et ça a ces impacts-là. Voilà. C'est ça qu'ils font les
Ouais,
chercheurs.
et ça c'était intéressant de voir, parce que c'est quoi? C'est la R5, donc c'est des travaux qui ont 10-15 ans, qui mettent plein de BEX partout, et immédiatement ça réagit, ça adapte, on n'en est plus là aujourd'hui, et aujourd'hui, t'as des personnes qui parlent au grand public, qui disent « Ah, oh, regardez, c'est vraiment n'importe quoi », en pointant du doigt des travaux qui ont 10-15 ans et qui ont été critiqués, discutés, updatés immédiatement, quoi. Donc sur cet aspect historique, ça c'était vraiment intéressant. Et après, ouais... Faudra creuser différentes technologies. Moi, une des difficultés que j'ai vraiment sur le sujet, c'est que Je ne sais pas si on prend la capture directe du CO2, par exemple, ces grands ventilos là qui... aujourd'hui, on sait faire en laboratoire, on sait faire même un peu mieux qu'au laboratoire, on a des prototypes industriels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait le déployer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans 30 ans, il y en a peut-être beaucoup, ou il n'y en a peut-être pas du tout, quoi. Vous voyez, on en est au point où en fait on ne peut pas dire tant que ça. Je ne peux pas vous montrer par A plus B que c'est impossible d'un point de vue énergétique, matériel et tout. On peut discuter des difficultés, mais je ne peux pas dire ça n'arrivera pas et je ne peux pas dire ça arrivera. Et en fait, bien malin aujourd'hui sur des technologies aussi peu déployées, qui peut dire quelque chose là-dessus, quoi. Et là, vous voyez, c'est différent de. Je ne sais pas comment dire. Le photovoltaïque, vous regardez où ça en est aujourd'hui, où sont les limites, où en est le déploiement. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant qu'il y en aura plus de construits l'an prochain que cette année, quoi. Enfin. C'est pas un gros pari. Par contre, savoir à quoi ressemblera l'élimination du carbone dans 20 ou 30 ans, waouh, bon courage quoi. Et donc ça, c'est des sujets où je pense que si tu m'avais pas proposé, j'aurais pas forcément été sur ces sujets-là. Parce que c'est des sujets où j'ai l'impression qu'on peut pas dire tant que ça, quoi. Mais
Oui,
c'est peut-être
c'est du long
important de pouvoir
terme.
dire qu'on peut pas dire. Enfin, on peut. Dans la vidéo, on dit déjà plein de choses, mais je veux dire, c'est. Aujourd'hui, je ferais des paris là-dessus à 30 ans, je serais pas confiant quand même. Hein.
Moi, il y a un truc que j'ai compris au fur et à mesure. Alors, perso, moi, je connaissais très très bien, on va dire, le côté vraiment scénario théorique et général, mais je connaissais peu les méthodes. J'en connaissais deux ou trois et c'est tout sur la quinzaine.
Ok.
Donc, j'ai appris au taquet sur ça. Mais j'ai aussi compris un truc, c'est que l'atténuation, telle qu'on l'entend la plupart du temps dans les discussions et en climat, c'est bon, bah, des renouvelables, de l'électrification, tout ça. Ça, c'est actuellement 90% du boulot à peu près, dans les quantifications qu'on avait dans les scénarios qu'on voyait. Mais c'est les 30 prochaines années dans un scénario 1.5. Ensuite, bah, c'est fait. Donc après, il reste l'atténuation à moyen long terme, on va dire de la deuxième moitié du siècle et le 22e siècle, c'est de la gestion du carbone atmosphérique. C'est tout. Le reste sera fait déjà. On aura des renouvelables partout, on aura un peu de nucléaire, on aura électrifié le taquet dans un monde qui est atténué sérieusement, hein. Par contre, il restera toute la part EDC, émission de dioxyde de carbone. Et ça deviendra 100% de l'atténuation à un moment. Et il y aura des choix de société à faire, à se dire est-ce que là on est à 1.8, on est à 2.3, on est à 2.8 degrés, est-ce qu'on fait continuer de faire des efforts pour faire descendre ça à plus loin, à long terme? Parce que ces gens-là, ils réfléchissent dans l'EDC sur ouais, au moins un siècle et demi, 2 siècles. Et c'est ça, les prochains scénarios qu'on aura d'ailleurs, ils vont aller plus loin. Oui, il y a ça aussi dans la prochaine panel de scénarios, les prochains rapports. Ils s'arrêteront plus à 2100, je pense.
Ah, intéressant.
Ils veulent 2150, je crois. Enfin, moi, j'ai vu passer des papiers de propositions. Donc après, il faut encore acter dans les intercomparaisons de modèles et de scénarios ce qu'ils vont faire. Et ça, je ne sais pas si ils l'ont déjà fait. Mais il y avait des propositions de 2150.
Ah, 2150, c'est loin, j'aurai 160 ans. Ok.
Ah, il y avait une bonne question de Cholatz 88.
La
Est-ce que
première.
vous avez évoqué le seuil de rejet de CO2 des océans? Pour l'instant, le système capte pour chercher l'équilibre, mais il y a bien un seuil où il y aura émission. On a une idée. Tu veux répondre à ça?
Ouais, je peux répondre parce que c'est un peu lié aussi du carbone. En fait, bon, ça, alors, il y aurait quelques trucs bizarres si on va extrêmement vite parce qu'on se retrouvait avec un océan de surface un peu surchargé. Mais si on réduit l'allure envisagée, en fait, si on regarde sur le très très long terme, si on imagine, bon, pas de perturbation, genre retour en période glaciaire, mais si on regarde sur le vraiment long terme et qu'on fait une pulse d'émission aujourd'hui, on revient à peu près à ce qui se passait avant la pulse d'émission. Et ça, c'est l'océan qui joue sur le très long terme. Donc en fait, sur le très long terme, l'océan, c'est un immense buffer qui va prendre le surplus, tout le surplus atmosphérique. Donc y a pas de, pour moi, il n'y a pas de seuil où l'océan s'inverse, quoi. Sauf s'il se réchauffe très vite et qu'il n'y a pas vraiment de surplus dans l'atmosphère, quoi. Je pense que cette question de l'inversion, elle se pose beaucoup plus pour les puits terrestres, pour des forêts qui peuvent être endommagées par le changement climatique, s'assécher ou brûler, etc. Et je crois qu'on le montrait dans la vidéo, les questions d'inversion des puits.
Alors moi, on avait enlevé un bout, on a rentré un peu mal dans le détail là-dessus parce que ça faisait un gros morceau sur cette partie cycle du carbone. Au début, je voulais le traiter, il y a deux, trois figures dans le groupe 1 du GIEC sur ça, sur des scénarios un peu extrêmes d'émissions négatives pour aller explorer la réaction des puits de carbone. Il y a effectivement cet effet-là, mais on ne l'évoque pas dans la vidéo parce que c'est du très long terme et c'est
Ouais.
pas si important que ça en soi. Enfin, ça remet pas en question le principe même des émissions négatives. Donc du coup, on a choisi de laisser de côté.
Ouais. Et on a juste l'endroit où on voit le puits de carbone océanique et terrestre. Là, je l'ai à l'écran qui se réduit au fur et à mesure que les émissions se réduisent, comme ça réagit à un surplus. Et on voit que. Et pourtant, on est dans une situation où la concentration atmosphérique, elle se réduit là dans le scénario SSP 1.2.6. Et vous voyez que ça reste un puits. Il continue d'y avoir du CO2 retiré de l'atmosphère par l'océan dans ce cas-là. Donc il faudrait vraiment aller assez loin dans l'élimination et très rapidement pour qu'il y ait des problèmes avec ce puits. Ouais.
Ouais, donc je dis pas avant longtemps est négligeable si c'est nécessaire. Donc c'est un peu l'idée. En fait, si ça t'intéresse, tu peux fouiller dans le chapitre 4, je crois. Il y a un chapitre cycle du carbone du groupe 1 du GIEC dans lequel il y a ces figures. C'est du
Chapitre 5 du
2300,
coup.
2400, chapitre 5. Et il y a notamment une belle figure où on voit les échanges entre les compartiments. Donc on voit les émissions anthropiques, les captures anthropiques, enfin, le DC, les actions des puits terrestre, océanique. Sur le scénario, c'est le SSP 1.2.6. Donc lui, c'est un scénario 2 degrés, mais avec de l'EDC. Et on voit les échanges de compartiments jusqu'à 2300, 2500, je sais plus. Et on voit l'inversion à très long terme avec ce modèle-là. Hein. Il faudrait le faire avec plusieurs modèles pour voir vraiment ce que
Ouais.
ça donne.
Bah
Mais
si tu l'as sous la main, on peut leur montrer, hein, si t'arrives à la trouver.
oui, ça va se trouver,
Et
ça.
je peux répondre aux questions en attendant. D'ailleurs, je demande sur les 100 prochaines années, l'océan va-t-il uniquement dissoudre le CO2 en surface? Ou y aura-t-il des quantités significatives de CO2 qui partiront dans les fonds? Ça pareil, il faudrait regarder des modèles de puits du carbone qui pourront répondre. Il y a constamment des plongées d'eau, donc en fait il y a déjà du CO2, on va dire post-révolution industrielle, qui se retrouve vers les fonds. Par contre, niveau des quantités. Je sais pas, je saurais pas dire. Je pense qu'il y a aussi des modifications de la chimie qui ont déjà lieu. Et on sait d'ailleurs que, enfin, comment dire ça rapidement? En fait, il y a une partie des sédiments océaniques qui servent de buffer. Quand on met trop de CO2, ça s'acidifie. Et du coup, cette eau un peu plus acide, quand elle va descendre, elle va dissoudre une partie de ces sédiments. Et c'est comme ça qu'on sait dans le passé qu'il y a eu des périodes de perturbation du cycle du carbone et d'acidification des océans. C'est qu'on voit dans les roches sédimentaires des pertes de certains éléments, quoi. Et donc je ne serais pas étonné qu'on observe déjà ce type de phénomène aux endroits de plongée d'eau, donc notamment l'Atlantique Nord, quoi. Et tu veux que je montre à ton écran ou pas?
Ah, on peut, ouais.
Vas-y, je monte ton écran.
Ça fait longtemps que j'ai pas partagé des choses. Donc moi, je vous ai mis le lien dans le chat avec les numéros de page. C'est bien le chapitre 5 sur le cycle du carbone. Il y a une première box qui doit être dédiée à. Donc en gros, le groupe 1, il fait les bases physiques, mais il explore les réactions du système climatique à des choses comme l'EDC. Et ici, c'est une figure un peu complexe où il explique ce qui se passe dans un monde sans humain qui vient foutre le bordel entre les échanges. Entre les compartiments, on va dire, du cycle du carbone. Après, à l'ère industrielle, on a donc les humains qui enlèvent de la partie géologique, qui remettent dans l'atmosphère, qui elle-même a une partie qui est captée par les terres et les océans. Et en bas, on a un net positif d'émissions de CO2, mais avec de la capture. Et on est complètement en net négatif. Et on voit les transferts entre les compartiments à ce moment-là, et on voit les incertitudes sur la réaction des puits terrestres-océaniques. Et donc ça, je vous laisserai aller voir sur le détail, mais la figure dont je parlais, bon, ici on a des pulses, on voit un peu les réactions des compartiments, et c'est celle-ci que je trouve assez parlante. Je ne sais pas ce que je zoome assez. Donc on a 2000, 2050, 2100, et ça va jusqu'à 2300. Et c'est donc un scénario 2 degrés avec de l'EDC. En 2000, on a ici nos augmentations de CO2 qui nous font monter. On a les puits terrestres qui réagissent en vert, les puits océaniques en bleu, on obtient cette concentration de CO2. Et entre 2000 et 2050, pardon. Et ensuite, entre 2050 et 2100, on a encore des émissions de CO2 nettes. On est en ppm, hein, là, tout le long. On a encore des émissions de CO2, nettes, et la réaction des puits. Et ensuite, un peu plus loin, eh ben, au XXIe siècle, dans le scénario, les émissions nettes de CO2 sont négatives, donc on est en négatif. Et on voit qu'en fait, l'EDC, elle est quand même largement plus importante à ce moment-là que les puits. Ce qui n'était pas le cas du tout au XXe siècle. Mais au XXIe siècle, les puits, ils ont leur action qui diminue fortement, puisque les puits, on peut dire qu'ils réagissent en quelque sorte aux émissions. Et comme on l'a vu avec la figure que tu as montrée juste avant, Rodolphe, quand on réduit les émissions, l'action des puits, elle commence tout de suite à réduire. Elle n'attend pas qu'on soit atteint à net zéro. Et dans ce modèle-là, on a les puits terrestres qui sont positifs dès la première moitié du 22e
Légèrement
siècle,
positif.
légèrement un peu. Il continue, l'océan, lui, continue à être négatif. Mais ça, c'est un
Ouais,
modèle,
c'est.
hein, de mémoire.
Mais
Ça
c'est un peu
peut.
ce que je dis. Enfin, ça correspond à ce que j'avais vu dans la vidéo sur le cycle du carbone. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de dire.
Ouais. Je pense qu'avec d'autres modèles, on aurait des résultats un poil différents, mais dans l'ordre de grandeur, c'est à peu près ça.
Donc voilà, on a une réponse précise à cette question.
Et vous avez échappé à ça dans la vidéo. Hein. Ah, vous êtes passé à ça d'avoir de plus sur le sujet.
Vous êtes passé à ça d'avoir une vidéo de 2 heures et demie. Vidéo que je trouve déjà ouais, assez complète,
Ouais.
même
Ah,
par
bravo,
rapport,
celles
même
et
par
ceux qui sont
rapport à
allés jusqu'au
l'achat.
bout. Hein.
Sans y être obligé par leur métier ou leur prof ou whatever. La capture du CO2 peut servir aussi, alors c'est une question de Matodif, peut aussi servir à la synthèse des i-carburants, plus précisément les i. Les électro-hydrocarbures, je pense que eux c'est pour ça. Dans ce cadre, la DOCO couplée au dessalement. La quoi?
C'est de la DAC, mais océanique, je crois.
Ah, couplée au dessalement pour alimenter l'électrolyseur me paraît une piste intéressante. Par exemple, au Maroc ou en Mauritanie, puisque le CO2 dissous est des dizaines de fois plus concentré dans les mers que dans l'air. C'est une bonne question. Est-ce que c'est pas qu'une question de concentration, c'est une question de facilité technico-économique pour aller chercher le CO2, si on doit choisir entre le chercher dans l'océan ou l'atmosphère. Mais là, on parle, en fait, là, on n'est plus sur l'élimination, on parle de d'aller chercher du CO2 pour l'utiliser. Parce que là, on capturait le CO2 apparemment pour faire des électrocarburants. Et en brûlant ces carburants, on dégagerait CO2 qui retournerait à l'atmosphère. Alors, c'est pas forcément mal, hein, ça peut éviter d'utiliser des carburants fossiles. Donc finalement, on aurait une boucle qui est neutre, au moins sur le carbone utilisé, plutôt que d'aller chercher du pétrole et qui finit dans l'atmosphère, ce qui n'est pas neutre, on fait qu'en ajouter. Donc, mais ça serait plus une logique d'éviter des émissions par ailleurs, ou d'avoir une activité neutre au moins sur le carbone utilisé que sur l'élimination. Et après, sur est-ce que cette chaîne est viable, je ne sais pas du tout. Je pense que j'y arriverai si je dois, si je fais un peu, si je parle un peu d'hydrogène et de dérivés dans les transports, je toucherai un peu à ces questions, mais pour l'instant, j'y ai pas touché. En tout cas, pour l'instant, enfin, de ce qui existe, c'est des très petits volumes, c'est assez cher. Les électrocarburants, c'est quand même, c'est pas perçu. On n'en voit pas beaucoup dans les scénarios de transition pour l'instant, quoi. T'es dit 10, je suis arrivé trop tard. Bah, ça fait 1 heure. On répond un peu aux questions. On a peut-être quelques autres sujets à traiter en attendant.
J'ai une autre
Non,
question pour
alors attends,
toi.
je vais quand même revenir sur Sholohatsu 88 parce que j'ai eu la réflexion la dernière fois sur la troisième vidéo sur l'hydrogène et j'ai recompté du coup. J'ai une vidéo sur comment on fabrique l'hydrogène, j'ai une vidéo sur l'hydrogène dans l'industrie et j'ai une vidéo sur la voiture à hydrogène. Donc pour moi, il y en a déjà trois. Donc on peut parler d'une quatrième, d'une cinquième, il y a d'autres applications. Mais quand même, je voulais me défendre sur ce point. Donc c'est vrai que j'ai pas fait d'hydrogène dans les transports en entier, mais j'en ai parlé sur la voiture, parce que c'était un sujet qui m'était souvent demandé, même si c'est pour les experts, c'est pas forcément le plus important, mais ça m'a été souvent demandé. On a évoqué, alors Teddy 10 nous demande, est-ce qu'on a évoqué les effets d'une trop grande concentration de CO2 dans les océans? Donc non, on n'a pas évoqué ça, on a regardé, est-ce que l'océan pourrait relâcher du CO2 si on réduisait beaucoup les émissions? Donc ça, c'est une autre question, trop grande concentration de CO2 dans l'océan. Je ne sais pas si sur la page, là, tu as un truc sur l'acidification ou pas, dans différents scénarios.
Dans quel chapitre c'est?
Au pire, il y en a un dans le
C'est
SPM.
dans le résumé.
Donc oui. C'est quelque chose pareil
En français même.
qu'on n'a pas évoqué dans la vidéo, c'est que du point de vue de ce qu'on parle ici, c'est pas mal qu'il y ait du CO2 qui aille dans l'océan, mais ça pose d'autres problèmes, et notamment ça modifie la chimie de l'océan, et notamment ça modifie le pH de surface. Alors l'océan
Il est bas.
restera basique, dans le sens le pH restera au-dessus de 7, comme vous pouvez le voir sur cette superbe figure. Mais l'acidification des océans, c'est problématique, hein, pour tout un tas de choses, et notamment pour les organismes qui y vivent, et donc par cascade, hein, pour les sociétés humaines qui dépendent de ces organismes directement. Hein, je pense notamment des populations pour qui des micronutriments essentiels comme l'iode viennent des produits de la pêche, ou indirectement en activité économique, en tourisme, en tout ce que vous voulez. Et du coup, l'acidification, c'est un problème, hein, pour la biodiversité, donc c'est quelque chose qu'on voudrait réduire. cette acidification. Et pour le réduire, on fait comment? Bah, on émet moins de CO2. Parce qu'en fait, c'est une conséquence directe de nos émissions de CO2. Et là, vous pouvez voir dans différents scénarios ce qui se passe avec cette acidification. Et vous voyez que dans des scénarios SSP1, 1.9, qui vont quoi? Vers 1.5, cela à peu près?
1,9, 1,5 et 2,6 2 degrés, ouais.
Donc, qui sont des scénarios où on aurait dans les deux cas l'élimination à la fin du siècle. Les émissions nettes sont
Dès
négatives.
2050.
Ouais.
2050 l'un et 2070
Et
l'autre.
de, ouais, donc voilà. Et dans ces cas-là, sur ces trajectoires-là, vous voyez qu'on stabilise l'acidité de l'océan, enfin le pH de l'océan, un peu en dessous de ce qu'il est aujourd'hui. Alors que si on continue d'émettre comme des sangouins, on va avoir une acidité qui augmente significativement. Juste petit rappel de chimie, le pH qu'on regarde ici, qui regarde l'acidité, c'est une échelle logarithmique. Donc en fait, entre mettons 8.1 et enfin 8,1 et 7,1, vous avez un facteur 10. Donc en fait, c'est quand même des évolutions de la chimie de l'océan qui ne sont pas négligeables. Et avec ça, vous avez, enfin ça influe, le pH influe la disponibilité de certains ions, cations. Vous déplacez plein d'équilibres, c'est un peu compliqué, mais et notamment la répartition du carbone sous les formes inorganiques, donc H2CO3, HCO3-, CO3-. Et ce petit CO3-, c'est ce qui sert pour certains organismes à faire des coquilles calcaires, hein, pour les coquillages, mais aussi des crustacés, etc. Donc si c'est plus acide, il y a moins de CO3-, et ça devient plus compliqué d'aller chercher cette brique-là. Donc vous dépensez plus d'énergie, et c'est compliqué pour ces organismes-là. Avec les coraux, par exemple, hein, qui sont en première ligne, parce que ça n'a échappé à personne que c'était des structures calcaires. Coraux qui sont des colonies d'animaux, ce sont des colonies de polypes qui vivent en symbiose avec des algues. Ouais, je trouve ça marrant, c'est, je pense, et enfin, ça appartient à la famille des méduses, les coraux en fait. C'est des petits animaux qui vivent dans des coquilles. J'espère que je raconte pas trop de conneries parce que là on est un peu sur mon passe-temps plus que sur mon domaine de compétences, mais voilà, très joli les coraux, très joli. J'en ai pas vu souvent, mais très joli.
Et moi, je crois que j'avais une question pour toi. Est-ce que j'ai fait le tour? Ouais, non, ça t'a déjà répondu. Et il y a quelqu'un qui t'appelle.
Ah ouais, c'est la colère là, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la colère.
Je voulais te demander, toi qui as fait une thèse déjà, c'est plus facile de faire de la science ou de vulgariser de la science?
C'est une bonne question, c'est pas la même chose et c'est pas les mêmes enjeux, sachant que. Ouais, je dirais quand même que. Par rapport à des collègues journalistes ou vulgarisateurs, moi je suis financé par ma communauté, j'ai pas trop de contraintes de sponsorship. L'an dernier, il n'y a pas eu énormément de vidéos, on va se le dire, parce que ça prend beaucoup de temps à faire, mais je continue à avoir des revenus dans ce cas-là, parce que financement participatif. Donc en fait, moi je peux prendre beaucoup de temps pour travailler, et là je suis un peu dans la même situation que j'étais en doctorat, où en fait j'avais toutes mes journées pour travailler. Et fallait que je produise du contenu, mais je devais pas faire un article tous les X. Donc en fait, je me retrouve quand même. Je pense que t'as, enfin, à ta question générale, je suis déjà un peu dans un cas particulier. Je pense que la question générale, ça serait pour quelqu'un qui doit vulgariser très vite, quoi. Et après, bah, j'ai l'impression que dans les deux cas, on essaie quand même de produire des connaissances à une échelle qui est différente, hein. Un chercheur, il va vraiment produire des connaissances nouvelles, et moi, ce que je vais produire, c'est une forme de synthèse, d'agrégat qui n'existe pas normalement avant que je le fasse. Il n'y a pas de vidéos qui sont du contenu déjà existant. Peut-être les toutes premières, c'était pas très loin de ce qu'on pouvait lire ailleurs. Enfin, c'était un travail original, mais où il y avait d'autres occurrences qui ressemblaient à ça. Maintenant, cette vidéo, je pense pas qu'elle a des choses qui ressemblent beaucoup, sauf celle sur l'article sur Bon Pote par Emmanuel Pont qui a été fait en parallèle. Et donc voilà, il y a vraiment la production d'un travail original. Après, c'est pas les mêmes contraintes, c'est pas tout à fait la même méthode de travail. Et si j'étais chercheur, j'aurais à gérer des questions administratives, des questions de carrière, des questions un peu de positionnement, ce qui peut être une partie un peu désagréable. Et quand on est vulgarisateur, ce qui peut être une partie un peu désagréable ou agréable, ça dépend des gens, c'est d'être une personnalité publique, ou d'être directement enfin voilà, de recevoir des mails. Des commentaires, etc. Alors, Quelque part, enfin, il y a des moments où c'est extrêmement gratifiant. Hein. Il y a des personnes, je sais pas, hier j'étais. Ah, je pourrais en parler vite fait, je toucherai deux mots, mais hier j'étais à un lancement d'une plateforme du Shift, là, ça peut être intéressant, on regardera ça tout à l'heure, Loïc, qui est à mon avis une bonne chose. Et donc dans ce cadre-là, il y a des personnes qui viennent me féliciter pour mon travail, me remercier, etc. Et qui n'iront pas remercier, je sais pas, tous les chercheurs là, sur lesquels on a construit cette vidéo. Hein. Sans eux, cette vidéo n'existe pas. Et c'est moi, quelque part, qui récolte. Tout ce fruit-là, parce que je suis le dernier maillon, je suis le maillon visible pour mon public. Donc, ça, c'est le bon côté de la pièce. Le mauvais côté, c'est on a des commentaires désagréables, des mails désagréables, des petits conflits avec d'autres personnes, des petites luttes d'ego, des désaccords pas toujours faciles. Et ça, on l'a moins quand on est chercheur, cette confrontation. Sauf ceux qui s'engagent, parce qu'il y a quand même des chercheurs qui s'engagent et qui prennent très très cher. Hein. On peut penser à Christophe Cassou, par exemple, qui a quand même pris des grosses claques. Et donc, lui, il a les deux mauvais côtés, quelque part, hein, des deux professions, quoi. Faudrait filmer Loïc un peu dans les vidéos, au moins sur son ballon. Et donc je sais pas, ce que je peux répondre aussi, c'est un peu pourquoi j'ai fait ce choix-là, parce que j'ai fait un doctorat, j'aurais pu continuer avec une carrière universitaire. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que la chaîne telle que je la pense aujourd'hui, et c'était encore plus vrai quand j'ai commencé. C'était vraiment motivé par l'impact, et que j'avais l'impression d'avoir plus d'impact à cet endroit-là, parce que contact plus direct, et aussi parce qu'il y avait plus de vide. Ça, j'ai pu en parler un petit peu dans la vidéo sur le Raptor. C'est quand j'ai fait les premiers debunks sur Courtillo, sur Gervais, etc., il n'y avait pas grand monde. Hein. Maintenant, quand le Raptor nous sort ses âneries, il y a eu quand même des réactions de Vert, il y a eu des réactions de Bon Pote, il y a eu des réactions de Limite, il y a eu des réactions de AFP Factuel. Voilà. Maintenant, il y a un écosystème. À l'époque, ça n'existait pas. Est-ce que maintenant, je ferais le même calcul? Je ne sais pas. Mais à l'époque, je trouvais ça vraiment important de rendre ces éléments visibles. Et je l'ai vraiment fait. C'était ma logique, quoi. C'était ma logique, c'était d'aller sur ce terrain-là, parce que c'est là que j'avais l'impression, au moins, d'avoir un impact. Si un jour je pense que cette chaîne a plus tellement d'impact ou plus d'utilité, je pense que j'irai faire autre chose. C'est pas, je continue de faire ça parce que je pense que c'est utile. C'est vraiment le premier moteur, quoi. Et après, ouais, j'étais aussi fatigué de certains aspects de la recherche. Je sais pas si ça vaut le coup de s'étendre là-dessus, parce que c'est des dynamiques qui dépendent un
Ça
peu
me dégoûte
des.
pas, attends, après j'y arrive donc.
Ouais. Mais moi, j'ai eu des problèmes de dynamique qui sont, à mon avis, des problèmes qui arrivent dans certains milieux scientifiques qui sont trop petits. Tu vois, des problèmes de personnes qui essayent de freiner des recherches, des problèmes de revues par les pairs qui sont un peu faites au nom. Et ça, c'est des dynamiques, je pense, qui arrivent dans des petits milieux qui fonctionnent pas très bien.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a je sais pas comment on prononce ce pseudo, Esclou-là, qui demande c'est quand même bien d'avoir été en contact avec la science pour vulgariser, non?
Je pense que c'est important, et je pense que. Ouais. Je pense vraiment que c'est important. Alors, ça apporte plusieurs choses. Ça apporte de voir comment la science fonctionne, de voir aussi certains biais. D'avoir participé à des revues par les pairs en tant qu'auteur, c'est important. En tant que relecteur, ça l'est aussi, pour voir un peu comment ça fonctionne et d'entendre un peu les chercheurs entre eux. Ça permet de se rendre compte de ces biais-là, et du coup on fait de la vulgarisation en sachant que les publications scientifiques, c'est ce qu'on a de mieux, mais en sachant aussi que c'est pas parfait, quoi, en ayant conscience de ces biais-là, parce qu'on les a vus à l'œuvre. Donc ça, c'est un premier aspect important. Et puis l'autre aspect important, et je pense qu'il manque à certaines personnes qui font de la vulgarisation, c'est que quand vous avez passé 3 ans à essayer d'étendre un tout petit peu les frontières des connaissances en maniant plein de concepts compliqués, en n'étant pas capable d'expliquer tout ce que vous avez fait à une personne rapidement, vous vous rendez compte en fait que vous pouvez pas maîtriser tout, quoi. Et en fait, je pense que sur ce qu'on appellerait finalement une délégation de connaissances ou une délégation d'expertise, le fait de faire confiance à un tiers sur ce qu'il raconte, bah avoir fait un doctorat, c'est un bon apprentissage pour ça. Vous vous rendez compte que, en fait, c'est impossible de creuser tous les sujets jusqu'au bout. Il y a forcément un moment où vous arrêtez, vous êtes obligé de faire confiance à quelqu'un sur une méthode, sur des données, etc. Et en fait, ça, clairement, quand vous avez dû faire de la recherche, vous le comprenez. Vous le comprenez très facilement, très rapidement, et ça vous évite peut-être de vous dire, par exemple, je sais pas, les sciences économiques, c'est tout nul parce que ils prennent pas en compte les ressources, d'après une citation de 1850, quoi. Donc ça évite de tomber dans ces biais-là, parce que vous vous rendez compte de l'énormité de travail qu'il y a derrière, hein, et que s'il y a un truc qui vous paraît aussi stupide, c'est probablement que c'est vous qui avez tort. Et ça, c'est intéressant, parce que Non, mais ça c'est intéressant parce que très, alors je me moque un peu de réactions ou de posts qu'on peut voir sur LinkedIn, hein, de gens qui se pensent au-dessus de tout le monde et de toute l'expertise et qui comprennent mieux que les scientifiques parce qu'ils se sont dit qu'avec la systémique, en fait, fallait combiner deux secteurs et on comprenait mieux que tout le monde. Donc je me moque un peu de ça. Mais il faut quand même se rendre compte que cette prétention-là, elle apparaît assez tard, hein, parce que moi, je donne des cours à des élèves et le réflexe des élèves, quand il y a des travaux scientifiques qui ne comprennent pas, ou qui sont en désaccord avec leurs convictions, le premier réflexe des élèves, très souvent, c'est de dire, ok, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est pas de dire, les experts du sujet sont des gros bouffons parce que c'est à l'inverse de mes convictions. Et donc, je sais pas comment dire. Je pense qu'un gros enseignement du doctorat, c'est que ça vous évite, enfin, ça vous, non, c'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est pas vrai pour tout le monde, mais vous prenez quand même. Vous rendez compte de ce qu'est l'expertise et que c'est très dur d'être expert en tout et vous apprenez à vous méfier de vos intuitions et de croire que vous avez tout compris un sujet. Je sais pas comment le dire mieux. À mon avis, il y a des meilleures formulations, mais ça vous met un peu quelques barrières à vous percevoir comme expert en tout, quoi. Et c'est pas vrai parce qu'il y a des prix Nobel qui racontent n'importe quoi sur plein de sujets, ultra crépidarianisme et tout. C'est pas vrai pour tous les cas particuliers, mais je pense que c'est vrai en moyenne. J'espère que les personnes qui ont fait de la recherche, qui ont un doctorat, sont plus prudents que la moyenne quand ils sortent de leur domaine d'expertise. Et ça se trouve, je me plante, faudrait regarder des études de sociologie, mais j'espère. Bref, il y a eu pas mal de réactions, je pense. Tu m'as lancé sur un sujet qui t'intéresse, là.
Ouais, c'est bah, moi ça m'intéresse aussi. Perso, moi je fais le trajet inverse, donc j'arrive plutôt de la vulga, mais sans avoir fait de thèse, et je vais faire une thèse, et donc
Alors, du coup,
et,
bah, je peux te poser la même question. C'était quoi ta question? C'est quoi le plus dur? Vulgariser ou produire
Ah.
de nouvelles connaissances?
Moi je suis en train de me décomplexifier parce qu'avant bah, j'avais ma vision de bah, moi je suis juste un journaliste et entièrement un vulgarisateur. Et puis loin dessus, il y a les chercheurs qui sont très forts et qui connaissent tout très bien. Et au-dessus, enfin, dans les chercheurs, il y a une hiérarchie. Tout en haut, il y a ceux qui sont profs, puis ceux qui sont au GIEC et autres. Et maintenant que j'ai suffisamment de temps passé dans ces sujets-là, je me rends compte que tout le monde dit des conneries à peu près à tous les niveaux. Déjà. Donc je me méfie des gens en général. Et c'est pour ça que je me rapporte toujours au papier, puis au rapport, et puis après,
Ça te fait ça
les
quand tu
gens.
lis tes propres articles aussi?
Ouais, moi, je suis vraiment pire avec moi-même. Hein. Je suis assez dur.
On critique tout le monde, mais on se critique
Ah,
aussi, ça va.
quand je relis mes posts, des fois, je suis en mode, oh là là, j'ai osé poster ça. Bref, mais du coup, je me rends compte à quel point finalement le travail de recherche, il est difficile, il est compliqué, etc. Mais il n'est pas plus difficile que le travail de vulgarisation, je trouve. Le travail de vulgarisation, il demande beaucoup de temps, de lecture, pour être fait correctement, hein, parce qu'après, faire un post à 2 balles sur LinkedIn en racontant n'importe, sans vérifier ce que tu dis, c'est facile. Mais moi, personnellement, je ne considère pas ça de la vulgarisation. Donc, de la vulgarisation qui fait un peu les choses correctement, bah, ça demande du temps de lecture, ça demande d'aller faire vérifier ce que tu écris par des personnes qui sont celles qui sont expertes du sujet, à minima, normalement. Ça demande d'avoir une vue d'ensemble du truc pour ensuite resserrer sur les éléments les plus importants, ce qui demande de faire des choix, ce qui est difficile. Et ensuite, il faut rendre tout ça compréhensible pour les personnes. C'est-à-dire qu'il faut se projeter à la place du public, d'un public novice ou en tout cas qui ne connaît pas bien cette chose-là, sinon ça n'a pas de sens. Bah, tout ça, c'est dur en fait. Et je commence à me rendre compte à quel point bah, c'est valorisable aussi, quoi. C'est pas de la production scientifique à proprement parler, parce que ça passe pas par le système de revue par les pairs, mais ça a tout autant de valeur en fait, et ça fait beaucoup plus de vues. Donc en fait, c'est assez important. Par rapport à un papier de recherche qui lui va en faire quelques centaines au mieux,
Alors,
par des gens qui connaissent.
petite pause parce qu'on accueille un raid de tout ce qu'on prend là qui nous envoie 49 personnes. Donc, bienvenue à ceux qui arrivent et qui nous découvrent peut-être par la même occasion. Donc aujourd'hui, on fait un peu un live post-publication sur une vidéo sur la chaîne YouTube Le Réveilleur qui parlait d'élimination du carbone, donc des méthodes qui permettent de retirer du CO2 de l'atmosphère. Et là, on parlait de la vulgarisation et de la production scientifique. Est-ce que l'un était plus dur ou plus gratifiant? Sachant que moi, j'ai fait un doctorat puis de la vulgarisation depuis 10 ans. La chaîne va avoir 10 ans cette année. Alors, au début, c'était en parallèle du doctorat, donc ça fait pas 10 ans que je suis parti, mais. Et Loïc a fait beaucoup de vulgarisation et là il est en doctorat donc on a deux trajectoires
L'inverse.
inverses. Et je sais pas, tu voulais finir, rajouter.
Non, non.
Et moi il y a un truc là-dessus qui me paraît important et qui n'existe pas encore, c'est un peu d'avoir des personnes hybrides en fait. Parce que je pense que c'est utile pour. Enfin, Une personne qui ferait les deux, ça peut être utile pour sa vulgarisation et pour sa recherche. Et avoir des personnes entre les deux, ça peut être utile aussi. On pourrait imaginer que les personnes qui sont entre les deux font des choses un peu moins vulgarisées, à la limite. Et là, je pense notamment à Stéphane Deboeuf qui essaye encore de faire un peu de recherche. Notamment, ils avaient fait des papiers sur la vulgarisation scientifique sur Internet, etc. Donc, ils continuent d'avoir un peu les pieds dans les deux mondes. Et je pense aussi à des chercheurs hein, qui, notamment sur le climat, qui ont passé pas mal de temps à vulgariser. Christophe Cassou, Valérie Masson-Delmotte, Céline Guivarch, et tant d'autres qui sont entre les deux quand même quelque part. Hein.
Sachant qu'il y a un problème de temps, parce que vous avez votre temps disponible, hein, il y en a pour qui il est plus grand parce qu'ils n'ont pas de vie sociale, je ne donnerai pas de nom. Et ça, bah, vous le divisez entre la recherche et la vulgarisation, la communication de l'état de recherche. Et il y a des gens qui vont faire beaucoup de recherches et ils ne vont pas communiquer. Il y a des chercheurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils sont vraiment que dans les revues par les pairs. Et si leur université un jour fait un communiqué de presse, c'est le seul truc qui sortira de leur travail, à part leur papier dans les revues spécialisées. À l'inverse, il y en a d'autres, et ils sont critiqués pour ça. Ils publient un papier toutes les 36 de l'an, et ils passent leur temps dans les médias à se promener et à être interviewés, et parfois à dire des choses sur des trucs qui ne sont pas leur sujet. Et eux sont assez mal vus en général. Par exemple, Étienne Klein prend cette critique-là assez régulièrement. Typiquement, il a publié un papier de physique depuis je ne sais pas combien de temps. Il n'est plus vraiment scientifique, il est 100% vulgarisateur. Ça n'empêche pas de faire les choses très correctement, hein. Mais vous avez ce curseur entre les deux. Et si vous voulez faire les deux à la fois, ça prend du temps et de l'énergie, donc ça pose des
Bah
questions personnelles.
vous faites forcément moins de recherches, mais c'est intéressant de voir par exemple que dans les doctorats, ils demandent de plus en plus de faire de la communication aux doctorants, de vulgariser un petit peu. Ça peut se faire à différents niveaux, mais je pense que c'est intéressant quand même. Et je pense que l'avoir fait au moins un petit peu, enfin comment dire, pour un vulgarisateur d'avoir fait un peu de recherche, je pense que c'est utile dans son métier de vulgarisation. Et pour un chercheur d'avoir fait un peu de vulgarisation, je pense que c'est utile dans son métier de chercheur, tu vois. Après, tu peux choisir ta dominante quelque part ou ta répartition, et c'est pas grave de faire l'un ou l'autre, mais je pense que c'est vraiment des approches qui se répondent, quoi. Il y a eu quelques réactions à ce que j'ai discuté, notamment une réaction de Chocolats88 qui dit que mes vidéos sont cool alors qu'il est absolument pas scientifique, juste curieux. Et de Xadas0 qui dit: mon travail a bien un impact en termes de vulgarisation, notamment pour ceux qui ont une certaine base de connaissances scientifiques. Donc c'est bien, j'ai les deux. Ça, c'est cool. Et Win qui dit, faut que je fasse un contenu que j'aime, sinon ma chaîne a un pied dans la tombe. Alors je suis désolé, mais moi, si je pouvais jouer à Teamfight Tactics ou à Rocket League ou à n'importe quoi toute la journée, enfin vraiment, je peux pas vous dire que c'est un pied absolu, la chaîne. La chaîne, c'est mon métier. Je suis payé pour ça par une partie de mon public et je produis du contenu. C'est vraiment mon travail et c'est comme ça que je le vois. Et maintenant que j'ai une fille et tout, j'essaye de pas le faire le soir, le week-end, etc. Donc de plus en plus, alors j'essaye, enfin, c'était déjà mon travail il y a quelques années, mais maintenant de plus en plus, j'essaye de le cloisonner pour que vraiment ça soit mon activité professionnelle et que ça n'empiète pas sur le reste.
On arrête de faire des visios les dimanches soirs maintenant.
Non, mais ça, alors effectivement, quand il y a des lecteurs ou des tiers qui ont un vrai métier et qui peuvent pas la journée, y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment de mon point de vue, la chaîne, c'est mon travail, c'est pas ma passion. Je fais ça parce que c'est important, mais être important, c'est un peu, comment dire, c'est une démarche militante. Je fais ça parce que je pense que c'est utile. Je fais pas ça parce que c'est un kiff absolu d'aller décortiquer le Raptor et de se taper sa prose qui est insupportable. voilà. Et Hamster of Pi dit: comme chercheur, faire de la pédagogie est nécessaire quand on rédige un papier. Je pense que la vulgarisation en thèse, c'est un moyen pour apprendre ça. Ouais, je pense. Et puis d'autres moyens, ça peut être de l'enseignement aussi. Il y a pas mal de chercheurs qui font de l'enseignement, ça peut être une autre approche. Mais je pense que c'est important de garder une continuité là-dedans.
Ouais, on a Ace Kula qui n'aime pas de bof.
Ouais, c'est compliqué.
Il y a des longues histoires.
Ouais. On va pas
C'est dur.
se lancer là-dedans. Moi j'aime bien, voilà.
Et oui, plagiat pour Étienne Klein. Moi, c'était pas sur cet aspect-là que je voulais insister sur ce moment-là, mais il y a aussi d'autres bails autour de son
Et
travail,
Loïc Jacon, est-ce que
spécifiquement.
tu vas vulgariser ta thèse après?
Bah, je peux pas m'engager là-dessus parce que dans 2 ans, autant j'en aurai tellement marre que je passerai à autre chose. C'est vraiment pas exclu. Je sais que c'est un peu le problème avec les thèses. Tu y passes tellement de temps que quand c'est fini, bah, tu passes à autre chose. Ça dépendra aussi si c'est intéressant ou pas. Hein. Si c'est pas intéressant à vulgariser, je le ferai pas. Il y a d'autres trucs à vulgariser, typiquement. Mais peut-être, hein, on verra. Si après, si je fais le pur chercheur de sciences humaines, parce que moi je suis dans ce domaine-là, après tu essaies de publier ta thèse dans un livre aux éditions La Fabrique. On verra, c'est loin encore.
Et Windy, c'est surprenant ce que tu dis. Tu as choisi le métier de youtubeur parce que tu penses que c'est important, non parce que c'est quelque chose que tu aimes. On appelle ça de l'abnégation. Non mais en vrai, quand j'ai commencé à tomber sur le climat, j'ai eu vraiment ce moment où je me suis dit, ok, moi avec ma formation scientifique, enfin, si des personnes comme moi se bougent pas là-dessus, qui va se bouger quoi? Et je me suis vraiment orienté là-dedans. Il y a cette volonté à la base. Après, je dis pas que c'est une souffrance de tous les instants, mais je dis que je fais ce métier comme j'en ferai un autre. Et lundi matin, il y a plein de gens qui vont au travail parce qu'ils doivent le faire. Et je pense que c'est utile, donc ça me donne une motivation supplémentaire. Mais je pense qu'il y a plusieurs raisons pour aller travailler. Déjà, il y a des personnes qui n'ont pas le choix parce que sinon, ils n'ont pas de revenus et font des métiers qu'ils détestent. Ensuite, il y a des personnes qui font des métiers qu'ils adorent. Et il y a des personnes qui font des choses qu'ils pensent utiles. Et moi, clairement, la motivation, c'est l'utilité. Ce qui est un risque pour la chaîne, quelque part. Parce que si je pense un jour que cette chaîne n'est pas utile, j'irai faire autre chose. Alors, ça sera peut-être une autre chaîne, ça sera peut-être d'autres vulgarisations, ça sera peut-être plus du conseil, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, cette chaîne, je la fais parce que je pense qu'elle est utile. Mais je pense que c'est une. Alors, pour le coup, je pense que c'est une motivation suffisante pour travailler dans ce domaine-là. Et moi qui interagis dans ce milieu autour de moi du climat, il y a plein de gens qui travaillent, je sais pas, au Shift, à l'ADEME, etc., qui font des tableurs relous. Ça leur plaît peut-être pas de faire des tableurs, ils font ça parce qu'ils pensent que c'est utile. Moi, je suis entouré de personnes avec des grosses. Enfin, entouré, je suis dans un milieu, on va dire, un peu large de vulgarisation ou d'action sur le climat, où il y a plein de personnes avec des très bonnes qualifications qui sont des personnes très intéressantes, très intelligentes, qui pourraient gagner beaucoup plus ailleurs et qui font ce qu'ils font parce qu'ils pensent que c'est utile. C'est et des métiers de conseil en, je sais pas, bilan carbone ou je sais pas quoi, c'est pas forcément passionnant. C'est
Mais ils reçoivent beaucoup moins de je sais pas comment appeler ça, mais de cookies sociaux que nous qui sommes un peu
en plus,
des
en
fois,
plus.
enfin, toi plus que moi quand même, mais des personnes
Mais oui,
publiques.
c'est en plus j'ai cette partie-là du métier qui est quand même agréable, quoi. Hein. Et d'ailleurs, sur cette question de l'élimination du carbone, on a eu des retours qui sont plutôt positifs, y compris d'experts ou de personnes intéressées par ce sujet, y compris avec des sensibilités un peu différentes. Donc, je pense qu'on a, ouais, ça fait partie des retours qui sont appréciés quand on travaille sur ces sujets, d'avoir des retours d'experts, quoi.
Ça me rappelle, tu sais, quand j'avais sorti cet article sur les scénarios de décroissance, il y a 2 ans maintenant, je sais plus, enfin sur la décroissance dans les scénarios climatique, j'avais eu pareil, j'avais eu des retours de gens vraiment de bords très très différents, on va dire, qui sont plutôt à se taper sur la gueule entre décroissance et croissance verte ce reste du temps. Donc je m'étais dit que ça, c'était quand même plutôt bien. C'est trouver une position à peu près bonne. Il y a un truc sur lequel je voulais réagir, mais j'ai oublié. C'était
Être vulgarisateur ou enseignant, ça peut se faire que si on a besoin fondamental de ne pas laisser traîner des incompréhensions, un réel plaisir à aider. Ah mais après, alors ça n'empêche que c'est. Enfin, je sais pas comment dire. C'est peut-être pas une passion qui me donne le feu tous les matins, mais c'est vrai que j'apprécie enseigner des choses, et c'est pour ça que j'enseigne un petit peu par ailleurs, hein, c'est pas pour la paye. Et j'apprécie aussi apprendre des trucs. Ça, c'est vrai, je suis quelqu'un de curieux par nature, donc je fais pas un truc qui est foncièrement opposé à ma nature, quoi. C'est pas ce que je dis non plus. Mais faut pas croire que des métiers comme le mien, c'est un kiff de tous les instants. Et si vous parlez à d'autres vulgarisateurs, ça sera pareil, hein, je pense. Bah, bref. Mais que dire de plus? Mais j'ai quand même de la chance. Je suis conscient que j'ai de la chance de pouvoir faire les sujets que je veux, la longueur que je veux. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Je suis pas du tout en train de me plaindre. Mais il y a quand même un point important qui est que ce que je fais aujourd'hui, ça repose sur la perception que j'ai de son utilité. Et ça peut évoluer au fil du temps. Voilà, soyez-en conscients. Parce que ça peut jouer sur ce que peut devenir la chaîne, quoi. Après, est-ce que c'est grave? Il y en a d'autres des chaînes. Je veux dire.
C'est vrai que on a quand même des discussions sur ça occasionnellement, presque régulièrement, mais au sens tous les 6 mois, 1 an. Et je dis souvent à Rodolphe qu'il fasse des sujets qui lui font envie quand même, parce que c'est juste comme ça qu'on peut tenir à long terme, quoi.
Ouais,
Sinon,
c'est vrai,
tu.
c'est vrai. Mais ça, je pense que je m'améliore au fil du temps et je vais continuer de le faire. Parce qu'en plus, des fois, je traite des sujets qui me saoulent un peu en me disant que j'ai l'impression que je dois le faire et c'est même pas forcément le cas en fait. Donc,
Il y a
ouais,
des trucs
sur des sujets.
désagréables que tu as fait qui étaient bien faits, type les climato-sceptiques, quoi. Enfin, désagréables.
Ouais, et pour le coup, alors le Raptor, ça faisait un peu répétition. C'était un peu, c'est bon, je connais. Mais les premières, c'était bien quand même. J'avais bien aimé. Après la bière, il est là, il me dit la même chose. Bon, ok, je vais vous écouter, je vais vous écouter. Avec des enfants, on relativise beaucoup de choses, nous dit Strux. Ouais, non, c'est vrai que ça change pas mal de choses.
Mais ouais, des fois tu te dis, bon, t'aurais peut-être préféré faire autre chose qu'une vidéo sur le taux de retour énergétique parce que c'est pas si intéressant, enfin pas si important que ça au final, mais il fallait le faire
Ouais.
parce que c'est un sujet qui était.
Ce serait quoi? Alors, on avait une question sur la NOA de Romifla02 et on en a déjà parlé. On en a déjà parlé un peu de l'actualité de la géolopétique, donc je suis désolé. On te renvoie vers le replay. Je sais pas, on en a parlé au bout d'une demi-heure, je pense.
Bon, on n'a pas dit grand-chose en plus, parce que de toute façon, c'est frais, tout se passe chaque minute, chaque heure, c'est dur à suivre. Donc,
Et après, la bière demande ce serait quoi? Des vidéos passion. Aïe aïe aïe, dur,
sur le
dur.
climat ou.
Si j'étais libre de n'importe quel sujet là? Je sais pas.
Ah, ok,
Je
large,
me pose
vraiment
pas
large,
souvent
quoi.
cette question-là. Ouais. Non, et si je vais le dire, ça va être retenu, ça va être des engagements, je ne vais rien dire. Je répondrai en privé. Alors, attends, il y avait quand même. Vas-y, pardon.
Non, mais moi, pour le coup, la vidéo sur le décès, là, c'est purement en vidéo passion, quoi. Je t'ai proposé de faire une vidéo sur un sujet que j'avais envie
Waouh!
de faire, quoi. Ouais, j'aime bien le carbon dioxide removal. Le sujet en lui-même, mais pour ce que je dis tout à l'heure, parce que ça parle de net zéro, ça parle de plein de trucs intéressants sur les scénarios. Et aussi, j'ai notamment appris, en plongeant dedans, beaucoup de choses sur les émissions résiduelles. Et ça, c'est passionnant comme sujet aussi, tout seul. Donc c'était assez cool. Et les prochains trucs, si on continue et que j'en écris d'autres, ce sera aussi des sujets qui m'intéressent à fond, parce que je suis pas capable d'en écrire sur des trucs qui me saoulent. Donc
Ouais, si je faisais pas vidéaste, peut-être de l'enseignement, peut-être de la recherche. Si j'étais bon, peut-être de l'écriture en vrai. Mais j'ai jamais. Non, je vais arrêter. Je vais arrêter de parler.
On avait quelques sujets de fond qu'on avait notés, dont on voulait parler. On a
Ouais.
parlé un peu du monde futur. Tu veux parler des 2 tonnes? Parce que je crois que tu as eu pas mal de
Alors,
retours là-dessus.
ouais. Avant, il y a peut-être un truc que je voulais faire. Ce que je voulais faire avant, c'était vous dire quelques mots. Mais je vais pas vous le montrer, mais je vais vous dire quelques mots sur. Un peu les statistiques de la vidéo parce qu'il y a des choses intéressantes notamment par rapport à la précédente sur le Raptor et notamment là on est sur une vidéo qui a fait un peu moins de vues mais c'est un sujet un peu plus pointu donc là on est je sais pas à 10 jours elle a fait 55 000 vues et quand on regarde la couverture et l'engagement c'est assez intéressant parce que j'ai regardé ça notamment à cause de ces histoires, vous avez dû suivre, de réseaux sociaux et notamment de Meta, de Facebook et quelques personnes qui trouvent qu'il n'y a pas assez d'énergie masculine. Et donc ça part un peu en vrille. Et j'en discutais parce que j'ai des collègues qui dépendent de ces plateformes plus que moi. Et en fait, moi, la majorité de mes vues sur YouTube, ça vient de YouTube. Ça vient pas de liens externes, ça vient pas des réseaux sociaux. Ça vient de YouTube, soit des personnes qui sont abonnées et qui ont activé la cloche, soit c'est proposé, ma miniature est proposée, donc c'est des personnes qui viennent de contenus similaires. Là, si vous regardez par exemple, je connais pas celle-là, mais il y en a Green Letter
Et
Club,
tu
je
partages ton
pense.
écran là ou.
Non,
Ah.
non, parce que c'est pas la bonne onglet, donc je raconte un petit peu. Mais l'essentiel, c'est les fonctionnalités de navigation et suggestion de la vidéo. Donc, c'est des personnes à qui, notamment, on propose la miniature. Et là, qu'est-ce que j'ai comme données? La miniature, elle a été proposée 725 000 fois. Et le taux de clic est de 3,8%, ce qui n'est pas mal. Hein. D'habitude, c'est moins que ça.
La miniature, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'image vraiment que vous voyez sur YouTube avant de cliquer.
Ouais.
C'est du vocabulaire de community manager hein, déjà. Et des
C'est vrai.
vignettes aussi.
C'est vrai. Et là, j'ai une audience qui est pour 28 000 sur 35 000. Donc, je ne sais pas combien ça fait. Ça doit faire 60, ça doit faire 3 quarts. 3 quarts des spectateurs réguliers. Donc, des personnes de la chaîne, quoi, des habitués de la chaîne, des abonnés de la chaîne. Ouais, 77% d'abonnés. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une vidéo qui a parlé à mon
Ah
public. Et
ouais.
c'est à peu près tout. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est moi par rapport à d'autres collègues, je suis pas tant sur mobile. J'ai encore beaucoup d'ordinateurs, mais les mobiles deviennent majoritaires. J'ai 45% qui m'ont regardé sur mobile, 41% sur ordinateur, 10% sur la télé quand même. J'ai regardé ma vidéo sur une télé l'autre jour. Putain, comment dire, le travail que je fais sur l'image, il est dégueulasse sur une télé. Ou alors c'était peut-être une télé dégueulasse. J'étais dans un gîte, mais ça rend pas la même. Et voilà, donc pas mal de mobiles, hein. Faut vraiment que je prenne l'habitude
Putain, on n'y réfléchit pas, c'est mal que tout réfléchir à
Ouais,
Mobile First.
faut vraiment que je prenne l'habitude de faire au moins un visionnage au dernier moment sur mobile pour voir si c'est lisible, tu vois, les trucs qu'on met, parce que j'ai pas cette habitude. Que dire d'autre? Un quart des personnes qui regardent, 26% même pour être exact, mettent les sous-titres en français. Donc je passe,
Ah ouais.
ouais, ça je pense c'est pas mal, tu vois, des personnes sur mobile dans les transports qui peuvent mal entendre un truc à un moment. Je pense, je sais pas exactement, mais un quart de sous-titres, vous voyez que c'est pas mal que ma mère les corrige. Sinon, dans les trucs beaucoup plus drôles, j'ai très peu de vues qui me viennent de sites externes, très peu de vues qui me viennent de playlists, mais il y a quelqu'un qui m'a mis dans une playlist qui s'appelle, est-ce que je l'ai sous les yeux? Sommeil. Voilà, parce qu'on voit ça. Donc voilà, c'est une. Je sais pas, c'est une. C'est marrant. C'est marrant. Et voilà, donc petit retour. Donc c'est une vidéo qui est dans la moyenne, qui pour un sujet assez compliqué. Du coup, Loïc, t'es plutôt content?
Ah oui, moi je trouve que c'est une réussite, hein. Pour un sujet aussi chiant, rébarbatif, complexe, je ne sais pas comment dire.
Un peu niché, un peu long terme, un peu. Il y a aussi une bonne partie de la frange qui s'intéresse à l'écologie qui va trouver ça trop lointain, voire hypothétique. Donc on est vraiment sur de la niche là, je pense.
Ouais. Mais c'est important, sinon on n'aurait pas fait. Enfin, moi je considère ce sujet important, à long terme. T'as des retours un peu?
Ewin demande, j'ai vu que YouTube propose une version avec piste audio en anglais pour les vidéos depuis quelques temps. Eh ben, j'ai vu et. Enfin, j'ai vu dans. Mais j'ai pas regardé ce que ça donnait. J'ai vu que l'option était là, mais j'ai pas. Et je devrais regarder en plus. Là, je me sens con du coup, parce que le premier réflexe, ça aurait été de regarder. Mais j'ai vu que YouTube, ouais, a fait une version en anglais automatique. Et je sais pas du tout ce que ça donne du coup, donc je peux pas faire de commentaire là-dessus, mais c'est une faute. C'est une faute. Et voilà, et les commentaires, beaucoup de commentaires positifs sous la vidéo et des sujets dont on peut peut-être parler. J'en ai noté
Ouais.
quelques-uns, je crois que tu en as noté aussi.
Ouais, bon, tu veux commencer par lequel?
Alors moi j'avais noté cette différence entre élimination et CCS, mais ça
Ouais, on
on
a
a parlé.
traité.
Bah, moi je vois ouais, peut-être 2 tonnes, parce que 2 tonnes c'est revenu souvent, notamment parce qu'il y a une vidéo de Chris, Minute Papillon, là, qui... T'as pas vu? Ouais, bah, qui critique. En fait, il dit voilà, les écolos. Bon, je caricature un petit peu, mais pas trop. Les écolos nous disent qu'on doit être à 2 tonnes. Et il prend nos gestes au climat, là, le calculateur de l'ADEME. Et il montre que même si t'es héroïque, t'es au-dessus de 2 tonnes. Donc on se fout de ta gueule, quoi. Et du coup, alors, y a plusieurs niveaux d'incompréhension là-dessus. Mais c'est un problème de nos gestes climat qui, à mon avis, n'est pas clair sur le fait que c'est un objectif indicatif. Déjà, on va y revenir. Mais à 2050, quoi. C'est personne ne prétend que vous devez être à 2 tonnes aujourd'hui. Et du coup, il réagit un peu à des discours moralisateurs sur Twitter et compagnie, de personnes qui disent qu'il faut être sous 2 tonnes et qui montrent tous les trucs bien qu'ils font, en disant que c'est extrêmement dur, quoi. Et Wind ici présent, on a parlé un peu sur le Discord en disant que ouais, c'est décourageant en fait. C'est décourageant de se rendre compte que 2 tonnes, c'est très dur, surtout quand tu as 1,5 tonnes de services publics sur lesquels tu as l'impression de ne pas avoir de. Donc je pense que ça a joué parce que la vidéo a quand même fait des vues. Après c'est en dehors de nos sphères pour le coup. J'ai essayé de mettre un message sous la vidéo. Bon bref. Donc il y a 2 sujets différents. J'ai peut-être pas lancé le bon. Et puis il y a aussi ce 2 tonnes. C'est quoi? D'où vient cet objectif? Je sais pas par lequel tu veux
Le
commencer
gros.
parce que du coup c'est bordélique.
Moi j'avais été perturbé à une époque où je discutais avec des gens qui vulgarisaient aussi par ce chiffre parce que j'avais pas trouvé une source. Je parle de là de 2020. J'avais pas retrouvé la source de la méthode de ce calcul. Je me disais, bah, ça va, ils nous sortent un chiffre, il doit bien. Et dans la SNBC, enfin dans des pré-documents de la SNBC, il y avait le chiffre, mais c'était un calcul de empreinte carbone, non, pardon, de budget carbone pour 2 degrés où on lissait sur le reste du siècle en divisant par la population estimée ou un truc comme ça. Donc ça n'avait pas vraiment de sens parce que c'était pas ton empreinte et que tu pouvais avoir. Enfin, c'était un calcul très théorique qui était censé donner un ordre de grandeur. Et c'était juste pour dire, aujourd'hui on est à 10 ou 12, on est trop. Ça servait qu'à ça. Mais c'était pas un objectif particulier ni, et pas une échéance donnée. Parce qu'en gros, ça représentait une division du budget carbone jusqu'à 2100. 2100, on arrête à zéro et on divise par la population. Ça ne marche pas comme ça. Et ensuite, il y avait, je sais plus, il y avait une autre source quelque part. Il y avait Carbon 4 dans leur document sur faire sa part. Ils avaient repris le chiffre, mais il sortait de nulle part. Et du coup, il était repris à nouveau. Et c'était ça la source principale. Donc, en fait, on ne savait pas trop d'où ça sortait. Il y avait des gens dans un papier de recherche. Ils avaient fait aussi un truc, mais qui n'était pas très, très clair. Et moi, je m'énervais parce que notre objectif de la SNBC, c'est un objectif de neutralité tout gaz à effet de serre en 2050. Ça veut dire que mon empreinte nette en 2050, elle est de zéro. Pas barre.
Ce qui est encore
Enfin,
plus dur si on te donne 1,5 tonnes de
non, elle n'est pas vraiment à zéro. Ça dépend du postulat que tu mets sur les émissions importées à ce moment-là. En gros, ton empreinte carbone en 2050 en France, dans la SNBC de l'époque, qui va peut-être un peu changer, on verra, c'est le reste des émissions importées postulées divisées par la population. Or, la SNBC ne donnait pas de chiffres d'émissions importées dans le futur, elle était plus qu'elle s'en sort la prochaine. Donc en fait, on n'avait pas d'objectif officiel en France, si ce n'est que les émissions territoriales étaient censées être à zéro, net. Moi, je préfère dire ça. Parce que je trouve que les gens ils se rendent compte tout de suite que c'est pas possible tout seul. C'est possible avec beaucoup de politiques publiques pour décarboner les gros secteurs en aidant les gens. Donc perso, en termes pédagogiques à l'époque, si je trouve qu'on aurait dû aller directement vers un truc plus dans ce style-là, ça ouvre un petit peu aussi la discussion sur les émissions négatives, parce qu'au final, en France, on est à plus ou moins 80 millions, ce qui veut dire à une France à 70 millions d'habitants, comme c'est prévu, plus ou moins, je crois que c'est 1,2 à peu près, un peu 1,1 tonnes chacun, positif et négatif. Donc c'est-à-dire que tu as besoin de DC. Dans l'époque, dans les postulats, c'était que de la forestation et un tout petit peu de BECCS, tout, tout petit peu. Alors, on verra dans la prochaine ce que ça donne, parce qu'on a un petit problème
Ouais.
avec nos puits.
Et en fait, il y avait beaucoup de commentaires qui parlaient de ce constat-là parce qu'à des endroits où on met les émissions résiduelles et ils divisent par la population mondiale et ils se rendent compte que c'est pas 2 tonnes. Et en fait, même si on avait fait l'exercice à l'époque, on a commencé à utiliser le chiffre de 2 tonnes, on aurait eu ce truc-là. Ça a jamais été 2 tonnes en fait, les émissions résiduelles.
Alors, je crois que l'atelier de
Si.
Deuxtonnes, dans sa méthodo, eux, donc, ils prennent les émissions brutes, pas nettes, et les émissions brutes au niveau mondial en 2050, dans des scénarios 1,5, tout gaz à effet de serre, tu divises par la population, tu arrives à peu près à Deuxtonnes. C'est un
Ok.
chiffre juste qui ne prend pas en compte les questions d'équité, donc c'est un chiffre mondial. Mais si tu es en France ou n'importe quel pays développé, tu es censé être en dessous. Puisque tu es censé décarboner plus vite que les autres. Ils ont choisi de le garder parce que c'est un chiffre qui fonctionne pédagogiquement parlant maintenant qu'il est connu. Mais perso, j'aurais préféré qu'il passe à une tonne, ne serait-ce que pour marquer un peu le coup, voire zéro pour la France, ou qu'il adapte pour les pays développés, je sais pas.
Et Pelletier Nuage demande, c'est bien expliqué dans les ateliers d'automne? Du coup, c'est bien expliqué. On a
Et
vu
je
dans
sais
l'automne.
pas
Ah,
parce
est-ce qu'il
que.
l'explique dans l'atelier?
Alors moi, je l'ai fait avant qu'il. Fasse cette note méthodologique, donc l'atelier. Je sais pas comment il explique maintenant. À l'époque, c'était assez bien expliqué quand même. Je trouvais ce qu'il y avait comme postulat derrière le chiffre, et tu comprenais quand même que en France, il allait falloir faire plus encore.
Et après, enfin. Est-ce que c'est grave au final cette histoire? Il faut vous rendre compte que là on est assez haut, on est à 9 tonnes de moyenne, on veut réduire, les prochaines étapes sont évidentes. Et cet objectif il est assez lointain, hein, 2 tonnes il l'envisageait pour 2050, et en fait vous savez pas ce que ça fera conduire une voiture en 2050 ou regarder Netflix en 2050 ou manger je sais pas quoi en 2050. Donc faut se rendre compte que ce qu'il y a derrière tout ça, et surtout derrière les services publics, on peut espérer que ça évolue quand même. Parce que eux aussi, on met en place des mesures pour réduire tout ça. Donc il ne faut pas considérer que quand vous êtes dans un calculateur, l'impact que vous voyez aujourd'hui pour toutes ces choses-là, ça va rester la même, ça va évoluer. Et du coup, c'est dur de savoir ce qu'il y aura en 2050. Et c'est vrai que si on garde que du côté des émissions, ça sera des émissions résiduelles. Et ces émissions résiduelles, faudra les compenser. Parce que si on garde que côté émissions, on sait très bien que ça ne sera pas zéro. C'est impossible de ne rien émettre. Donc si vous voulez une neutralité tout gaz à effet de serre, ça veut dire qu'une partie en face, il y aura de l'élimination. Ce qui est un peu un des grands enseignements de la vidéo. Mais du coup, ouais, il y a eu pas mal de blocages sur le 2 tonnes pour une raison, hein, qui est justifiée, qui est que ça soulève des questions, enfin, ça soulève des questions qui sont légitimes, je pense. Et il y avait eu un article quand même sur mon pote qui était pas mal, je pense.
Tu peux partager mon écran si tu veux, parce que moi j'aime bien cette figure, elle est stylisée au sens où on n'a pas des quantités précises, mais ça représente n'importe quelle trajectoire d'atténuation en gros. C'est de mes préférés du rapport du groupe 3. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est un point d'étape, en fait. 2050, on est sur une courbe qui descend, quoi. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut, sur lequel il faut insister. C'est pas on arrive à 2 tonnes, on y reste, ou à 1 tonne, ou à n'importe quoi. La courbe des émissions dans chaque pays et au niveau mondial, elle continue de baisser après. Donc, en France, techniquement, quand on va se projeter sur l'après 2050, il va falloir qu'on se projette dans une France nette négative, tout comme à l'échelle de l'UE. Pour l'instant, on commence tout juste à avoir des discussions et des réflexions là-dessus. J'ai pas vu encore de documents officiels, ni même de propositions d'objectifs, je crois. Mais les chercheurs qui bossent sur le sujet, ils attendent que ça. Et je pense qu'il y a des experts qui en off, y travaillent aussi déjà. Il y a des moments où il faudra dire explicitement bah, combien on vise, parce que quand il va falloir répartir l'effort des émissions négatives, c'est exactement la même chose que répartir des efforts d'atténuation, hein. C'est quel pays prend plus de parts que d'autres, et ça dépend des capacités respectives. Il y a des pays où ce sera plus facile de faire de l'élimination parce qu'ils ont beaucoup de forêts que d'autres. Et donc toujours faire gaffe à la différence entre quand on parle de tout gaz à effet de serre ou que de CO2, parce que c'est pas tout à fait pareil en termes temporels et en termes de quantité. Ah oui, est-ce qu'on peut expliquer un peu le graphique? C'est un scénario stylisé au sens où ça représente les caractéristiques principales d'à peu près tous les scénarios d'atténuation. Ils ont tous à peu près le même fonctionnement. Ce qui va varier, ça va être la forme de la courbe, c'est-à-dire la pente plus ou moins forte de baisse des émissions et les quantités d'émissions négatives associées pour respecter un certain budget carbone. Et on voit donc en haut, en bleu foncé, c'est les autres gaz à effet de serre, méthane, SO2, etc. En bleu clair, c'est le CO2. Et en bleu très clair, c'est le CO2 du secteur des terres. En bas, c'est l'élimination. Et il y a une élimination un peu en jaune foncé, c'est le secteur des terres également. Et après, c'est les autres méthodes, tout le reste en jaune clair, là. Et donc, on a une courbe de CO2 nette. Les deux courbes sont nettes, là, les courbes noires. Et une courbe de tout gaz à effet de serre nette aussi. Et la plupart du temps, comme on ne sait pas encore très bien éliminer les autres gaz à effet de serre, on fait une correspondance élimination de CO2 égale temps d'émission d'autres gaz à effet de serre restantes. Et ce qui fait qu'on atteint plus tardivement la neutralité du gaz à effet de serre. En moyenne, dans le scénario, c'est autour de 20 ans plus tard. 2050, neutralité CO2 et 2070, neutralité du gaz à effet de serre. En moyenne, ça dépend un peu des modèles, des scénarios, tout ça. Et en France, nous, on appelle neutralité carbone une neutralité tout gaz à effet de serre. Ça, retenez-le parce que ça va vous faire.
C'est dit dans la vidéo.
Ouais, c'est bien, il faut le répéter. Je pense qu'ils vont garder ce terme-là. Mais ouais, en France, c'est pas juste un équilibre CO2 en 2050, c'est la neutralité tout gaz à effet de serre. Et en fait, c'est un objectif qui est plus ambitieux que la neutralité carbone. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir expliqué ça aux capitalistes là-dessus, mais.
Après, même juste une neutralité carbone en 2050, ça serait déjà bien.
Oh, oui. Oui.
C'est très ambitieux, c'est très ambitieux. Ouais, pelleteur de nuages dit l'intérêt de l'atelier d'automne et surtout de montrer que c'est atteignable par étapes à condition de prévoir quelques efforts supportables. Et là, je pense que c'est important, c'est intéressant même de regarder la vidéo de Chris si tu as le temps, parce que ça montre un peu comment ça peut faire de la réactance quand c'est mal compris, quoi. Et ça montre aussi que peut-être mettre des objectifs très ambitieux, ça peut être difficile à communiquer, quoi. Moi, je trouve que ou la réaction de Ewin sur Discord, elle est intéressante pour ça.
Et j'ai pas lu ça, j'ai pas eu le temps.
Ouais. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, qui est un peu notre petit repère semi-privé, on va dire,
Bon, il y a
semi-public.
300 personnes, je crois, maintenant. Moi, je considère que c'est public, hein. C'est pour ça que j'ai pas trop de bêtises.
Ah, tu dis pas trop de bêtises là? Tu n'es pas trop agressif? Ok.
Ah,
Bah,
ça pourrait être
continue
pire.
comme ça, continue comme ça.
Non, c'est juste parce que
Je veux pas avoir tous tes cadeaux privés.
on a une bonne question de Twitch.
Ouais.
Qui nous dit bonsoir, sachant que l'alimentation végétale c'est déjà 0,9, je vois mal comment on fait rentrer tout le reste d'ici 25 ans, même avec beaucoup d'améliorations sur tous les plans. Par ailleurs, est-ce que l'objectif prend aussi en compte les 2 milliards d'habitants qui vont vivre ou naître d'ici 2050? Alors, pour les scénarios d'atténuation, ils prennent tous en compte la population, avec un scénario à peu près classique à 10 milliards en 2100, je pense, c'est le SSP2 qui est utilisé. Donc, ça, oui. Par contre, rentrer tout le reste, effectivement. Dans les scénarios d'atténuation, on décarbone, en tout cas rien que celui de la France, on décarbone complètement le transport et complètement le bâtiment en 2050. Je ne sais plus ce qu'il y a sur l'alimentation dans la SNBC. Ça enlève déjà un gros morceau, hein, ne serait-ce que transport et bâtiment. L'électricité est déjà décarbonée, on électrifie beaucoup. C'est quoi notre gros poste d'émission en France?
Mais ça, en fait, pour la partie SNBC, je le montrais dans la vidéo pour Le Monde sur les émissions en France. Après, ça répond pas concrètement toutes ces choses-là. Pour répondre concrètement à toutes ces choses-là, faut regarder les scénarios d'atténuation, que ce soit la SNBC ou les scénarios d'atténuation dans les rapports du GIEC, où il y a les différents leviers. Après, est-ce qu'on peut répondre très rapidement? Répondre très rapidement, c'est on dégage toutes les ressources fossiles pour la production d'énergie, pas de base quoi, ou quasiment, et après on doit trouver comment réduire les autres gaz à effet de serre et ou les émissions de CO2 qui sont pas liées à l'énergie, notamment le ciment et tout ça. Et ça, bah, vous regardez les scénarios. Moi j'en ai parlé sur la chaîne dans la vidéo sur le rapport de RTE pour la partie électricité où j'aborde très peu le reste, et sur Le Monde, vous voyez un peu. Alors on peut peut-être aller vite fait. Émissions en France.
Sachant que c'est une répartition sectorielle de scénarios, mais après, pour voir plus en détail comment on décarbone, il faut mieux aller voir le rapport de l'AIE, typiquement, qui est sûrement un des trucs les plus aboutis, je pense.
Ouais, NZ2. Alors là, il y a plusieurs scénarios, mais il y a notamment un scénario 1,5 degré et ils montrent toutes les technologies. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on disait dans la vidéo, c'est la majorité des technologies utilisées dans ces rapports-là sont des technologies matures. Alors, après, il y a plein de questions de déploiement, de difficultés, d'impact. On ne dit pas que c'est facile, mais aujourd'hui, sur le papier, dans des scénarios, donc des histoires qu'on se raconte, hein, mais sur le papier, on sait comment réduire ses émissions.
Enfin, c'est pas tant une histoire qu'on se raconte, hein. C'est une optimisation économique sur des postulats, précisément.
Ouais, d'accord. Mais dont le résultat, la crédibilité du résultat dépend de la crédibilité des postulats.
Mais ouais, l'AIE, ils font tourner leur modèle avec une démographie, un développement économique relativement classique, et ils mettent des postulats d'évolution des prix, et puis ils font tourner.
Ouais. Et pour répondre directement à Dodwitch qui dit, je vois mal comment décarboner le bâtiment, en fait, sachant que le ciment, l'acier, tout ça, c'est un des plus gros secteurs d'émissions, si je ne me trompe pas. Alors, non, justement, la construction va se retrouver, parce qu'on parle par secteur là, donc la construction se retrouvera, alors, c'est pas la bonne figure là, mais se trouvera dans les procédés industriels. En fait, la production du ciment, c'est pas dans les bâtiments, c'est dans l'industrie qu'elle est. Dans la manière dont c'est organisé. Si vous regardez la vidéo du Monde, là, vous voyez, ça, c'est les trajectoires pour l'industrie, et là-dedans, vous avez les matériaux de construction. Et c'est vrai que là-dedans, vous voyez que dans la SNBC, il reste des émissions, et un bon bout de ça, c'est le ciment. Par contre, le bâtiment, c'est ce qui est utilisé directement par les bâtiments. Alors, attends, c'est où les bâtiments? Je vais vous mettre le lien vers la vidéo après, ça sera utile. Et le bâtiment, vous voyez que ce qu'on a dans les bâtiments aujourd'hui, et c'est beaucoup des émissions, hein, c'est le chauffage. Chauffage, eau chaude, cuisson, et le autre. Le hôte, c'est essentiellement les gaz qui sont utilisés, qui sont des gaz à effet de serre, dans des systèmes de climatisation et ou des pompes à chaleur. Et ça, normalement, c'est réduit au fur et à mesure. Et donc, je ne sais plus, parce que ça, c'est pas l'analyse sectorielle. Mais l'analyse sectorielle, ça donne ça. C'est les émissions dans ce scénario de la stratégie nationale bas carbone. Il reste un bon bout de l'agriculture parce que là-dedans il y a des émissions de méthane et de protoxyde d'azote qu'on ne sait pas trop faire. Dans l'industrie, c'est surtout le ciment. Et le reste, on l'a réduit quasiment à zéro. Ça veut dire qu'on dégage quasiment toutes les utilisations énergétiques des ressources fossiles.
C'est l'industrie qui manquait. D'ailleurs, je suis fatigué comme ce soir.
C'est quoi?
Il manquait l'industrie.
Aïe.
J'avais dit, il m'en manque un gros quand même. Boula. Mais je me suis
Et.
occupé à 4h50 pour aller skier ce matin avant le boulot. Donc,
Et cette discussion permet
excuse.
de parler d'un point. Il y a. Un commentaire qui est revenu deux, trois fois, je crois, sous la vidéo, c'est qu'à un moment, on dit qu'il y a des secteurs durs à décarboner, même si on a des pistes et tout. Et il y a quelqu'un qui nous dit oui, mais pour l'acier, il faut arrêter, on sait faire. Et là, je vous renvoie vers mes vidéos sur l'hydrogène, parce que j'en ai parlé un peu. Mais aujourd'hui, techniquement, on sait faire de l'acier sans ressources fossiles. On sait faire de l'acier avec de l'hydrogène.
Tu vois,
Et
c'est
le
marrant, parce qu'on
carbone, on
met
en a avec la
de
biomasse.
côté, on a des gens qui nous
Ouais.
disent on sait pas décarboner, et d'autres qui nous disent mais ça va, c'est bon, on sait faire.
Ouais. Bah, quelque part, c'est peut-être. C'est peut-être bon signe si on prend des claques des deux côtés, mais ouais, il y a donc l'acier. Alors j'ai envie de dire sur le papier, mais non, c'est sur la paillasse et c'est même pas sur la paillasse. En Suède, il y a une aciérie qui s'appelle Hybrit qui fait de l'acier avec de l'hydrogène. Cet hydrogène, vous pouvez le faire bas carbone, c'est pas impossible. Et donc on sait faire. La question c'est est-ce qu'on sait le faire à l'échelle? Est-ce que ça sera plus ou moins cher, etc. Mais c'est pas, il n'y a pas d'impossibilité physique à faire de l'acier bas carbone. Il n'y a pas d'impossibilité physique à faire des engrais bas carbone. Il faut arrêter de croire ça. C'est toute la question, c'est combien ça coûte, est-ce qu'on y arrive, est-ce qu'on met les moyens, est-ce qu'on est prêt à payer le surplus, est-ce que ça nous aide de réduire la demande? La réponse là-dessus, c'est toujours oui. Hein. Si vous avez une marche un peu moins haute, c'est plus facile de monter. Mais et même pour le bâtiment, alors, Xadas dit aussi, on peut remplacer les structures en béton et acier par du bois, faire du stockage carbone à long terme, etc. Donc il y a aussi des questions d'autres matériaux. Et là aussi, on réfléchit à des matériaux qui capteraient un peu de CO2 ou qui en stockeraient à long terme, qui peuvent être des matériaux proches du béton ou très différents, notamment en bois. Et il y a des structures en bois qui sont assez grandes, hein. Il y a des pays qui savent faire ça. Donc il y a plusieurs pistes. On dit pas que c'est facile, mais il y a plusieurs pistes là-dessus. Et dans les scénarios, on peut voir quelles sont ces pistes. C'est sûr que le monde ne ressemblera pas à un scénario donné, mais il y a des chances qu'il se retrouve quelque part entre une combinaison de
Non.
scénarios, quoi.
Le scénario, ça, il nous sert à savoir ce qu'il faut faire pour arriver à notre site donné, c'est tout.
12 étages les plus hautes structures en bois. Le coût n'est pas une question négligeable. On voit bien que c'est le principal moteur des résistances, ne serait-ce qu'avec Trump. Ah, ben là, entièrement d'accord. Hein. Je pense que et c'est pour ça qu'on utilise des modèles économiques pour explorer ces questions-là. Et pas juste des modèles physiques, parce que répondre avec la physique, ça suffit pas. Je vais en choquer quelques-uns, mais c'est pour ça, enfin, vraiment pour ça. C'est parce que le coût, c'est important qu'on utilise des modèles économiques. Mais une fois qu'on a dit ça, la difficulté, c'est que aujourd'hui, vous pouvez avoir des discours un peu bas niveau qui vont vous dire les renouvelables, c'est pas cher grâce aux ressources fossiles. Mais c'est vrai dans la structure actuelle de l'économie, c'est pas voué à le rester. Qu'est-ce qui vous fait croire que ça deviendra coûteux si on en sort? Et le problème dans tout ça, c'est que ça dépend de déploiement technologique et ça dépend aussi d'effet d'échelle. Le photovoltaïque était monstrueusement cher il y a 15 ans, aujourd'hui c'est l'énergie la moins chère. Il y a 15 ans, vous pouvez être auditionné à l'Assemblée nationale et ne pas passer pour un bouffon en disant le photovoltaïque c'est trop cher. Vous le faites aujourd'hui, vous passez vraiment pour un con. Et donc cette évolution-là, elle est très dure à prendre en compte. Et beaucoup de personnes qui disent que c'est impossible, en fait, ont une vision très statique de l'économie et du développement technologique. Et ça, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point des auditions à l'Assemblée nationale qui ont 10-15 ans se retrouvent à côté aujourd'hui de la réalité. Et c'est normal parce que c'est imprévisible, enfin c'est pas imprévisible, enfin c'est en partie imprévisible. Mais du coup, c'est différent de dire ça peut évoluer jusqu'à là ou de dire ça sera toujours coûteux, quoi. Vous voyez un peu la différence. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais trouvé un papier parce que j'avais eu des altercations encore sur ce sujet. Donc, j'avais trouvé un papier qui montrait qu'aujourd'hui, faire de l'acier avec de l'hydrogène, ça demande moins d'énergie que de le faire avec des ressources fossiles. Donc, aujourd'hui, faire de l'hydrogène, c'est coûteux, mais est-ce que ça a vocation à le rester? C'est une question.
Moi, je trouve que c'est plus une question de d'intérêt opposé que de coût. Et Trump, typiquement, c'est une question de résistance pour des question d'intérêt, c'est-à-dire que dans un monde qui change ses sources d'énergie, vous avez des gagnants et des perdants. Et voilà, vous avez le résumé du blocage.
Xadas dit pour le coup, ça dépend aussi du marché. Il y a quelque temps, les éoliennes biosourcées se démocratisent et commencent à avoir des coûts compétitifs. Oui, bah c'est ça que je voulais dire. Alors, par l'effet d'échelle, ouais, il y a clairement des effets d'apprentissage, de marché, etc. Et il y a des questions de choix politique. Aujourd'hui, qu'une société bas carbone soit inabordable économiquement, du jour au lendemain, là, si on voulait changer, sans doute, mais à terme, je pense que c'est un point de vue qui est vraiment difficile à prouver, quoi.
Puis des fois, faudrait se projeter dans une société qui aurait fait tous les efforts qu'elle peut depuis 10 ans. Et où elle en serait? Et ben, je pense qu'elle en serait quand même beaucoup plus décarbonée qu'aujourd'hui. C'est pas comme
Ouais.
si on était au maximum de tous les leviers depuis 10-15 ans et qu'on n'arrivait pas à faire mieux que ça. C'est juste qu'on ne fout pas grand-chose, que la plupart des gens s'en tapent et que et ben, ça traîne. C'est ça la situation. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas faire beaucoup mieux. Au contraire. Hélas.
Et après, ouais, c'est des questions politiques. Et même si on va au-delà, on a aussi des marges de manœuvre sur la répartition très inégalitaire actuellement des ressources économiques, quoi. C'est aussi ça à prendre en compte. C'est la croissance des 2 dernières décennies ont été captées par les plus riches et ça aussi c'est un problème politique, quoi. Et on rentre sur cette question de la
J'étais
transition du
sûr
climat, c'est un
qu'on allait
sujet
arriver.
éminemment politique. C'est
Alors j'étais sûr qu'on allait arriver à l'anticapitalisme des croissances. C'est l'heure normalement de 2 heures de
il a
live.
changé le réveilleur, il a changé depuis le début de la chaîne. Alors normalement je m'arrête à 19h les gars, donc je vais pas trop tarder. J'ai parlé un peu d'acier. Il y a
On
un
va
point sur
parler
lequel
de.
j'aimerais qu'on revienne rapidement. C'est la question de 1,5 degré. Il y a eu pas mal de commentaires qui disent pourquoi vous commencez par dire scénario 1,5 alors que 1,5 on est déjà au-dessus aujourd'hui. Donc Loïc, je crois que tu connais bien ce couplet. Est-ce que tu peux leur répondre pendant que je regarde où on fait. Ah, et dites-moi si vous voulez un raid quelque part parce que ça va bientôt être la fin.
Ouais, rapidement, on est à 1,3, 1,4 aujourd'hui parce qu'on n'a fait qu'une année à 1,5. Il en faudra la moitié sur une période un peu plus longue pour être à 1,5 au niveau du climat. On y sera bientôt, hein, c'est une affaire de poignée d'années. On est en 2025, les estimations centrales sont pour 2029-2030. On verra les quelques prochaines années, ça nous dira vite, mais on n'est pas encore à 1,5 au sens de l'accord de Paris, qui est un climat, pardon, qui est une valeur qui exclut la variabilité naturelle du climat. C'est vraiment l'influence anthropique. L'influence anthropique, elle n'est pas encore à 1,5. Mais du coup, on va y arriver, on va le dépasser sûrement. Et après, de combien, ça va dépendre de les émissions futures. Donc là, soit on plafonne, soit on continue d'augmenter, c'est vraiment pas bon. Soit il commencera à se passer un peu un pivot dans les prochaines années, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va le dépasser quand même allègrement. Et dès le début des années 2030, sûrement. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Rodolphe?
Ouais, alors j'ai pas tout écouté, je suis désolé, mais moi j'aimerais ajouter un truc parce que c'est pas que du chipotage, ça, et notamment quand vous regardez au hasard un rapport du GIEC et vous regardez les conséquences auxquelles on s'attend à 1,5 degré, c'est pas le 1,5 degré qu'on a aujourd'hui sur une année, c'est le 1,5 degré en moyenne de température sur le long terme. Donc en fait, on n'est pas. Faut pas s'attendre à ce que le monde d'aujourd'hui soit le monde des modèles à 1,5 degré. Le monde des modèles à 1,5 degré, il est plus chaud que le monde d'aujourd'hui. Donc. C'est pas un détail quand vous voulez vous retrouver là-dessus sur les conséquences que ça veut. C'est
Oui.
ça que ça signifie, quoi.
Les incendies à Los Angeles, c'est les incendies d'un monde à 1,3
Voilà, par
les
exemple.
eaux.
Donc un 5, c'est pire que maintenant parce qu'on n'est pas à un
Ouais.
5. C'est. Et ça, je pense qu'on va le répéter. Et Loïc, je crois que c'est un sujet qui te plairait.
En fait, on a enlevé un petit bout du script pour tout vous dire sur la question du dépassement, parce que la question du dépassement, de l'overshoot, est liée à la question des émissions négatives, puisque c'est par les émissions négatives qu'on revient à un niveau de température souhaité, qu'il soit de 1,5 ou autre. En disant que ça faisait un gros morceau, que c'est un peu compliqué et que, bon, en fait, on le gardait pour plus tard. Mais je me dis de plus en plus que c'est pas juste sur le dépassement qu'on devrait faire quelque chose, mais plus généralement autour de 1,5. Du seuil, de comment on le calcule, de où on en est aujourd'hui, du fait qu'on va le dépasser et de ce que ça induit. Et
Tout
c'est
un
l'avenir en
programme.
fait. Non, mais c'est les discussions de l'avenir. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait une vidéo sur l'ODC, c'est parce que ça fait partie des sujets futurs. Dans le prochain rapport du GIEC du groupe 1, on sait déjà qu'il y aura plus de choses sur l'ODC, et pourtant c'est le groupe 1, donc ils vont aussi sur les éléments physiques. Il y aura aussi des choses sur la géoingénierie solaire. Parce que c'est des grosses discussions du moment sur lesquelles il y a beaucoup de publications et sur lesquelles on a besoin d'avoir une synthèse de ces éléments-là. Et le dépassement prend plus en plus de place comme discussion, puisqu'on va dépasser 1,5.
Alors, petit sondage du coup, est-ce que je vous envoie chez Montet qui parle de politique, chez Jean Massier qui parle de politique, de motion de censure, j'ai pas suivi, mais. Ou regardez Civilization 7, sachant que je me pose sincèrement la question de est-ce que je ferai quelques lives de Civilization 7? Parce que j'aime bien le jeu et ça serait intéressant de regarder comment ils intègrent des questions environnementales. En plus, on m'a posé la question pour un petit projet, donc faudra que je passe un coup dessus et je me pose la question, est-ce que ça intéresserait certains de regarder Civ 7 et de regarder est-ce qu'ils ont ajouté des choses? Parce que dans Civ 6, ils avaient essayé de mettre le changement climatique avec un succès dont on pourrait discuter, hein, mais voilà, c'est un jeu qui prétend modéliser la manière dont les civilisations se développent et il y a quand même des contraintes environnementales qui sont assez mal prises en compte dans les 4X pour l'instant et voir un peu s'ils vont dans cette direction, sachant que je suis un joueur assez nul. Donc voilà, est-ce que ça serait intéressant? Ou est-ce que vous voulez aller voir les Golf Legends? Il y a pas mal de gens qui regardent en ce moment. Doit y avoir quelque chose. Oh, il y a une personne qui a voté. Personne ne veut les raids.
Il dorme.
Après j'ai mis, ouais, peut-être. Et donc ça sera Jean Massier. Donc là c'était pour le 1.5. Je crois qu'on est bon. Est-ce que tu veux rajouter quelques trucs?
On n'a pas parlé de géoingénierie. Et ce soir, et dans la vidéo.
Ah oui.
Et t'as pas eu trop de commentaires là-dessus, non?
Ah,
Personne t'a dit.
j'ai eu quelques commentaires, ah oui, je ne te les ai pas copié-collés, mais qui parlent de mettre des miroirs dans l'espace et des poussières, etc. Donc en fait, qui parlaient d'un sujet qui n'était pas celui de la vidéo, quoi.
Ok. Parce que concrètement, à une époque, on aurait dit que c'était de la géo-ingénierie. Il y en a qui le disent toujours d'ailleurs. Et on a enlevé, je crois, le petit bout de script où je disais grosso modo que depuis le rapport spécial 1,5, le GIEC n'utilisait plus le terme géo-ingénierie parce qu'en fait, dans la littérature scientifique, il est utilisé tellement de manières différentes qu'ils ont du mal à le définir. Et ça les embête parce que, et regrouper derrière des choses qui sont relativement différentes, notamment d'un côté l'EDC, qu'on a vu là dans cette vidéo, et de l'autre. SRM, Solar Radiation Management, qui est tout ce qui est géo-ingénierie solaire. Les deux choses se sous-divise en plein de choses différentes. On a bien vu dans la vidéo sur le décès que derrière le décès, peindre un toit en blanc, planter un arbre, c'est de le décès. Quand est-ce que ça devient de la géo-ingénierie? Quand on entend beaucoup, quand on peint beaucoup de toits. Donc c'est compliqué. De l'autre côté, la CRM, vous avez aussi une palette de méthodes différentes avec des impacts différents. Donc ils se sont un peu débarrassés du terme géo-ingénierie. Ils parlent globalement de ce qui modifie le rayonnement d'un côté et de ce qui absorbe du CO2 de l'autre. Chaque chose, en fonction de l'ampleur, en fonction de la méthode, a des impacts potentiellement assez forts. Et il n'y a pas de solution miracle. Elles ont tous des impacts. Donc peut-être que plus tard, on parlera aussi de la géo-ingénierie solaire dans une vidéo, si jamais on se motive. Moi, j'aime bien ce sujet, donc, mais d'abord, plutôt
Arrête
parler
de
de mon
promettre des
1.5.
vidéos, arrête de
Oui,
promettre des vidéos,
grave.
pauvre fou.
Pourquoi pas.
Ok. Et pour finir, hier j'étais invité pour le lancement de la plateforme Comprendre 2050 par le Shift, l'ADEME, Negawatt, où il y a un décryptage de plein de sujets et il s'appuie sur les scénarios du Shift, de RTE, de l'ADEME et de Negawatt pour voir un peu notamment ce qu'il y a en commun dans ces scénarios, ce qu'il y a de différent et faire une vulgarisation qui est plutôt bien faite. Donc voilà, par exemple, sur ce qu'on a traité dans la vidéo, il y a une vulgarisation sur la place des puits technologiques en 2050 et il y a un résumé, donc un premier niveau de lecture. Il y a le lien avec d'autres sujets qu'ils ont traités. Et après, il y a un développement un peu plus poussé, y compris de regarder ce qui est envisagé dans différents scénarios, ici en termes de BEX, de
Il
DAX.
parle de puits technologiques sur le site.
Ouais.
Ça va changer ça.
Mais après, tu peux leur
Pour...
faire des retours, hein. Tu
Oui,
peux.
je fais une blague, mais en fait, le GIEC a enlevé une nomenclature qu'ils avaient dans les premières versions de brouillon du rapport du groupe 3, où ils avaient fait méthode naturelle, méthode technologique, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Quand vous regardez dans le détail des méthodes, vous pouvez planter des arbres avec des drones, et inversement, vous pouvez faire de l'enhanced weathering en les jetant les cailloux par terre. Enfin, c'est compliqué de distinguer, c'est des catégories assez arbitraires. Donc ils ont viré cette catégorisation-là. Et je les comprends. Mais je comprends aussi que d'autres gardent quand même cette idée-là.
Mais après, ce que je m'attends dans ce cas-là, c'est qu'ils aient récupéré la typologie du contenu qu'ils utilisent, non? Il faudrait regarder dans l'ADEME, en fait.
C'est possible. Moi, mon postulat, en tout cas, c'est que dans la prochaine version de la SNBC, il y aura plus de puits technologiques que dans la précédente. Parce qu'on a
Ah
des
oui, parce que
puits
la
terrestres
forêt, elle se
qui.
casse la gueule, ouais.
Il y a un moment, c'est mécanique hein, quand tu. T'as pas le choix.
Donc n'hésitez pas, je vais peut-être faire un post sur les réseaux sociaux demain, mais je pense que la plateforme vaut le coup quand même d'être consultée. Et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et ça peut permettre une
J'allais
synthèse
voir
de
ça.
plein de sujets, ouais, même de sujets que j'ai pas couverts. Ils viennent de le lancer, il n'y a pas encore tout parce que tout n'a pas été validé. Il peut y avoir des petites erreurs. N'hésitez pas à leur faire des retours. J'avais une petite erreur moi sur un graphe que j'ai vu et ils m'ont répondu dans la journée que c'était corrigé. Donc ils sont réactifs pour l'instant, c'est le moment. Et
En
ça
tout
c'est
cas.
cool avec des trucs intéressants, notamment. Vous voyez par exemple là ils mentionnent 40 TWh pour la consommation des DAX et du coup 40 TWh ils essaient de mettre des repères. Et là, ils disent, voilà, métropole Aix-Marseille, c'est 10 TWh, et la consommation électrique de toute l'industrie française en 2020, c'est 100, et ça permet de situer un peu. Donc c'est vraiment pour des personnes qui enseignent, qui vulgarisent, ou qui font du journalisme. Je pense que ça s'adresse plutôt à des personnes qui entrent sur ces sujets-là et qui sont perdues. Et après, ce qui est intéressant, dans les trucs que je trouve intéressants, par exemple, c'est, vous pouvez regarder, c'est où? Besoin de précision, contacter. Merde, je retrouve pas parce que sur les autres, en fait, en bas, vous pouviez télécharger un document où il y avait toutes les sources, quoi. Petits éléments interactifs. Ah, c'est marrant. J'étais sur quoi tout à l'heure? Normalement, il y a toutes les sources et donc les citations directes des différents rapports sur lesquels il s'appuie. Ouais, nos sources. Bon, l'autre, il devait manquer le document. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça et.
Une dernière question d'Adri qui demande est-ce que la restauration d'une tourbière, c'est de l'EDC?
Ben, si c'est une activité, moi je dirais que oui. Et il y est dans le
Philanthropique,
panorama.
il
Il y
me
a
semble, ouais.
restauration des tourbières et mangroves, il me semble.
Il y a énormément de méthodes de restauration d'écosystèmes, ouais. Il n'y a pas que planter des arbres. Et planter des arbres, c'est pas forcément ouf, de toute façon.
Ouais, je pense
De
qu'on l'a
manière
dit ça.
anecdotique, mais dans le groupe 3 du GIEC, si vous cherchez la box sur l'EDC, il y a une phrase que je trouve assez marrante dans la formulation qui dit grosso modo, les humains ont fait de l'élimination du dioxyde de carbone de l'atmosphère depuis des milliers d'années, mais sans vraiment s'en rendre compte. Parce que les humains, ils modifient leur paysage et ils font des choses dans le paysage depuis des milliers d'années. Ils aménagent des terrasses pour cultiver, ils coupent des arbres, ils replantent des arbres, ils changent des essences, etc. Et certaines de ces activités capturent du carbone dans l'atmosphère. D'autres ont emmené des maladies dans un autre continent et ont décimé des populations, ce qui fait que la forêt a repris, ce qui fait qu'on détecte potentiellement un impact climatique sur ça. Ça, je qualifierais moins ça de décès. Mais par contre, tout ce qui est localement de méthode naturelle, oui, ça y rentre. Après, l'enjeu, ça va être de le quantifier pour pouvoir évaluer combien ça fait, mesurer, etc.
Voilà, et Strux nous dit en lecture rapide, ça a l'air top, comprendre 2050.fr, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Je vous envoie en raid et ça va être temps
Merci à vous
de vous dire au revoir.
et à toi,
Merci
Robin.
à ceux qui ont suivi, merci à ceux qui ont regardé la vidéo, merci Loïc pour ce travail quand même. C'était
Avec
bien de
plaisir, merci à
travailler
toi
avec
pour la
quelqu'un.
confiance. Yes, ça fait plaisir.
Ça peut lutter contre ma solitude.
Et puis on se revoit dans un an pour le prochain.
Ah, je vais t'imposer que ce soit plus court, ça ira plus vite.
Ouais, oui.
Allez, bonne soirée
Ciao,
à tous, bonne continuation par ces temps troublés. À plus.
à plus. Oh, bah cool.